خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم حياكم الله جميعا Soyez les bienvenus inshallah ta'ala. Hier j'avais promis que pour commencer le dars aujourd'hui du fiqh, je devais faire une notion sur les bases du fiqh, sur usul fiqh. Parce qu'il y a des mots techniques qui vont revenir très très souvent, et il faut que vous les sachiez, les mots techniques. Afin que la prochaine fois quand je dis par exemple ça c'est wajib, ça c'est obligatoire, je dis ça c'est makruh, il faut savoir quelle est la différence entre wajib et makruh. Quand je dis mandoub, mustahab, tous ces mots-là, techniques, ne sont pas beaucoup. Aujourd'hui, on va faire seulement 5 ou 6. Vous en aurez besoin. Vous les trouverez beaucoup dans les doros, etc. Donc, il faut qu'ils soient, inshallah ta'ala, bien compris chez vous, afin que ça facilite les choses, inshallah ta'ala. On commence par enlever les points rouges aux traducteurs et traductrices. On commence à enlever les points rouges, inshallah ta'ala. Et on commence, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Ilyas, il est là, Abu Mohamed. Non. Inch'Allah ta'ala, qui veut encore être un traducteur ou une traductrice? Tayyib. Voilà, yani, il y a quelque chose, il y a une matière qui s'appelle Usul al-Fiqh. C'est-à-dire en français, ça donne à peu près. Les bases du fiqh, usul al-fiqh, c'est une matière très très importante, très très importante en islam. Car il faut que vous sachiez que les matières en islam, il y a beaucoup de matières, al-fiqh, sirah, aqidah, ces matières se divisent en deux grandes sortes. Hein. Il y a les matières qui sont des buts en elle-même, une fin en soi. Il y a des matières qui sont des clés, des instruments. Voilà, des instruments. Il y a des matières qui sont des instruments. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, quand on va étudier la aqidah. La aqidah, c'est en soi. Il faut connaître la aqidah pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer. Et le fiqh, c'est quelque chose en soi, une matière en soi. Pourquoi apprendre le fiqh? Pour que ça, nos adorations soient justes, etc. Mais par exemple l'arabe. L'arabe, c'est une matière instrument. Avec l'arabe, ça te donne une clé pour comprendre beaucoup de choses, beaucoup de mots, etc. Par exemple, usul fiqh dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un instrument pour comprendre le fiqh, comprendre la jurisprudence. C'est pourquoi on dit usul al-fiqh, les règles ou les bases du fiqh. Comme par exemple la sirah c'est une fin en soi. Tu étudies la sirah, la vie du prophète alayhi salam, pour savoir ce qu'il a fait, etc. Mais c'est pas un instrument. Donc ceux qui n'ont pas étudié au sol fiqh auront beaucoup de difficultés bien sûr dans le fiqh, en ce sens que ils auront toujours les choses comme ça, yani, éparpillées. Pourquoi? Ils n'ont pas les bases. C'est pour ça que, au sol fiqh, comme je viens de dire, c'est très 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 important. Al-Muhim, je voudrais donner une idée très vite pour ceux qui veulent noter aussi comme ça très vite pour que ça reste très clair dans la tête, etc. Que en islam, les ulama, après avoir bien fait des recherches, etc., on dit le hukm hada, le jugement. Au sol fiqh, le jugement, ils ont dit il y a 5 grandes choses qu'il faut connaître. On doit connaître le wajib, ça veut dire ce qui est obligatoire. Il y a des choses en islam, elles sont obligatoires, ça s'appelle le wajib. Moi je ne connais pas comment ça se dit les choses là en français, mais je vous donne en arabe, et vous l'essentiel c'est que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite les fondements de l'usul. Naam, usul, les fondements de fiqh. Ça. Quand je dis l'ouajib, moi je dis, je l'appelle l'obligatoire. Mais sûrement, en français, peut-être qu'il a un autre nom. Mais l'essentiel, c'est que vous compreniez qu'il y a des choses qui sont obligatoires. Ça s'appelle l'ouajib et ça s'appelle fard. Alors, pour ceux qui écrivent, un, l'ouajib ou bien le fard. C'est l'obligatoire. C'est des choses qui l'a obligé. Ça a plusieurs noms. Ça s'appelle aussi le hatm. Ça s'appelle le lazim. Mais, les deux ou là suffisent. L'ouajib, ça s'appelle le fard. Fard. C'est wajib, c'est la même chose. D'autres l'appellent aussi le lazim, d'autres l'appellent le hatim. Bon, maintenant, bien sûr, dans 5 minutes, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire être le wajib. Ensuite, il y a le mendoub. Le mendoub, beaucoup l'appellent le mustahab. Il l'appelle aussi le nafila. Il l'appelle aussi le sunna. C'est à peu près le recommandé. On a quelque chose, premièrement, qui est obligatoire. On a quelque chose, des choses qui sont recommandées, si elles ne sont pas obligatoires. Donc je répète, on a l'obligatoire et on a le recommandé. Le recommandé, c'est yani le mustahab. Ensuite, on a le moubah. Troisièmement, on a le moubah, ça veut dire le permis. C'est permis. Ce n'est ni obligatoire ni recommandé. C'est seulement permis. Je demande à Ayoub et Oum Afan de baisser les mains. Barakallahu fikoum. Donc troisièmement, on a le moubah. Le moubah, ça veut dire, c'est seulement le permis. Quatrièmement, on a le makruh. Makruh. Je ne sais pas exactement comment on dit ça en français. Makruh, ça veut dire, yani, disons le déconseillé. Makruh. C'est l'inverse du deuxième. Le deuxième, on a dit le mendoub. On a dit le conseillé. Maintenant, c'est le déconseillé. Il y a des choses qui sont déconseillées. Ensuite, il y a quoi ? Cinquièmement, il y a le haram. On dit cette chose est haram. Ça veut dire elle est illicite. C'est un péché. C'est haram. Maintenant, je vais, inshallah ta'ala, expliquer les cinq choses. Comment, yani, quelle est la différence entre les cinq et comment les reconnaître, donner des exemples, etc. Ensuite, rentrer, inshallah, dans le dars des grandes ablutions. Parce que ces bases-là, comme je le dis, il faut les connaître. On ne peut pas ne pas savoir quelle est la différence entre, par exemple, le déconseillé et le haram. On ne peut pas ne pas connaître la différence, ensuite comprendre le din. C'est impossible, ça va être très simple et très difficile. C'est pour ça, ces choses-là sont très simples pour celui qui a l'intention, inshallah ta'ala, d'apprendre. Ce sont des mots nouveaux, ensuite ça devient très connu, très répandu, ça devient de ton propre lexique. Premièrement, j'ai dit le wajib, l'obligé. Il y a des choses qui sont obligées en islam. Je donne un exemple très simple, par exemple la prière. Quelqu'un va dire qu'on n'est pas obligé de la faire. La prière, ça rentre dans le wajib, dans le fard. C'est obligé de la faire. Par exemple, le mois de Ramadan. C'est obligé de faire le siyam. On est obligé de faire le jeûne. C'est fard, c'est wajib. C'est wajib. Par exemple, beaucoup, beaucoup de choses. Je peux pas maintenant me souvenir des choses. Il y a tellement de choses. Par exemple, le mariage. Le mariage pour quelqu'un qui peut se marier, et qui en même temps a peur des fitnas et des problèmes et des machakels. Quelqu'un qui a les moyens pour se marier, par exemple, il a les moyens, par exemple, matériaux, il a de l'argent, il a une maison, il a de quoi dépenser, il a un travail, etc. Et en même temps, il a les moyens physiques. Il n'est pas malade, etc. Et en même temps, il a peur. Il a beaucoup de tentations, etc. Celui-là, il est obligé de se marier. Encore, mieux encore, il doit se marier avant le hajj. Si on lui dit tu vas au hajj ou bien tu te maries, il dit je me marie, je ne vais pas au hajj. Parce que j'ai peur de tomber dans les fitnas et dans les problèmes, j'ai beaucoup de tentations, etc. Donc, pour cette personne, le mariage est wajib, ça veut dire obligatoire. Par exemple, pour mes frères et mes soeurs qui vivent en Europe, par exemple la hijra est obligatoire. Celui yani, qui lui ouvre la porte, yani, inshallah ta'ala, il la fera. Quand quelqu'un n'est pas en mesure de la faire, dans les conditions, par exemple, maintenant ou là, au moins, qu'il soit sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse l'intention dans son cœur. Abu Muhammad dit qu'il n'y a pas de sang. Ou là, qu'il est mauvais le sang. Je ne sais pas si c'est chez moi ou là, chez lui. Riyad, il dit, il est bien. Omar Abdullah, il est bien. Je fais un troisième. Non. Abu Mohamed, le sang c'est chez toi, c'est pas chez nous. Barakallahu fik. Tu sors inshallah ta'ala et tu reviens. Tu sors inshallah ta'ala et tu reviens. Naam. Ummu Afnan. Ummu Afnan. Barakallahu fik. Si tu peux baisser le bras pour que je sache que quand quelqu'un lève le bras, c'est qu'il y a quelque chose. Si tu peux le descendre la main, barakallahu fik. Sauf si tu es bloqué. Sauf si tu es bloqué. Et même je disais au moins pour quelqu'un qui peut pas y aller ou là, au moins qu'est-ce qu'il fait? Au moins il fait l'intention dans son cœur. Au moins il laisse l'intention dans son cœur. Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quiconque ne fera pas le djihad, même l'homme yerzo, ça veut dire il va faire une bataille par exemple. Quiconque ne fait pas la bataille, quiconque ne fait pas par exemple une bataille, ne fait pas la guerre, ou bien ne se dit pas dans son cœur que par exemple s'il y avait la guerre sainte, etc., il l'aurait fait ou là il la ferait, celui-là mourra dans un chemin des hypocrites. Ça veut dire qu'il a un signe des hypocrites. Donc là je vous sais ce qui se passe dans les cœurs. Nous au moins, celui qui n'a pas encore fait la hijra, au moins il fait l'intention dans son cœur que dès qu'Inch'Allah que hein, il termine ce qu'il a ou là les portes s'ouvrent Inch'Allah ta'ala, il la fera. Donc ça on a parlé de quoi? De wajib, obligatoire, fard. J'ai donné quelques exemples. Maintenant comment on sait que cette chose est obligatoire? Tu sais que cette chose est obligatoire si Allah Azza wa Jal ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande de la faire avec une demande, yani d'une façon yani avec insistance, comme ça que disent les ulama. Huwa khitab Allah ta'ala mutallaq bi fi'l mukallafin ala jihat al-fi'l bil-fi'l ala jihat madha ala jihat al-hatm wal-ilzam. Ça veut dire il te demande de faire quelque chose, il te demande de faire, mais avec insistance. Pourquoi on a dit ça? Car il y a des choses, il te demande de les faire sans insistance. Et il y a des choses, il te demande de ne pas faire, mais avec insistance, il insiste. Il y a des choses, il te demande de ne pas faire sans insister. Et il y a des choses, il ne te demande ni de les faire, ni de ne pas les faire. C'est pour ça que le hukm, hada, le hukm, qu'on est en train d'expliquer les cinq choses à dos, c'est quoi? C'est en principe ce que Allah Azza wa Jalla t'a demandé ou bien de faire ou bien de ne pas faire. Ce qu'il t'a demandé de faire, ou bien avec insistance ou bien sans insistance. Ce qu'il t'a demandé de ne pas faire, ou bien avec insistance ou bien sans insistance, ça fait quatre. Il reste le cinquième, ce qu'il t'a demandé ni de faire ni de ne pas faire. Inch'Allah ta'ala, ça va venir, peut-être maintenant ça paraît embrouillé ou là, ça va être très clair, Inch'Allah. Au moins, et d'ici la fin du dors, inshallah ta'ala. Donc le wajib, l'obligé, comment je sais que cette chose est obligée? Allah Azza wa Jal m'a demandé de quoi? De la faire, c'est pas de ne pas la faire, de la faire. Il m'a demandé de la faire comment? Il a insisté pour que je la fasse, comme la prière, comme le hajj pour celui qui a de l'argent, faire la zakat pour celui qui a de l'argent. Tout ça, ce sont des choses qu'il m'a demandé avec insistance. Il a pas dit comme ça une fois dans le Coran, il l'a répété plusieurs fois qu'il faut vous fassiez cela. Ça s'appelle le wajib, le fard et l'obligatoire. Deuxièmement, on avait dit le mandoub. Ça s'appelle aussi le mustahab. Ça s'appelle sunna, nafila. Ça, ce n'est pas obligatoire. Ça s'appelle en français, on dit la mashi fardain. Non, c'est pas fardain. Abu Lina, c'est pas le fardain. Le mandoub, c'est le conseiller. C'est la sunna, c'est tout. C'est quelque chose que Allah Azza wa Jal ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a conseillé seulement de faire. T'a conseillé, c'est une sunna, ça s'appelle. Ça s'appelle nafila, surérogatoire. Ce n'est pas obligé. Naam, surérogatoire. Surérogatoire. Je ne sais pas, je croyais surérogatoire. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de le faire. Je parle de wajib. Naam, le wajib se divise en deux. Je suis pas encore allé là-bas. Non, je reviendrai à ça, Inch'Allah ta'ala. Je reviendrai à ça, Inch'Allah ta'ala. Je disais deuxièmement, ça s'appelle ce qui n'est pas oublié. C'est seulement conseillé. C'est seulement conseillé. Je donne un exemple. Par exemple, jeûner le jeudi et le lundi. C'est obligatoire de faire cela? Ce n'est pas obligatoire. C'est conseillé. Naam, c'est conseillé. C'est sunna. C'est nafila. Ce n'est pas obligé. C'est seulement conseillé. Par exemple, jeûner, par exemple, le Ashura. Faire le jeûne, le Ashura. Tasua, le 9e jour aussi. Ce sont des choses, quoi. Ils sont seulement conseillés. Ça s'appelle seulement mendoub. Mendoub. Ce n'est pas obligé. Le premier, on avait parlé de l'obligé, du fard. Maintenant, on parle seulement du surérogatoire. Naam, surérogatoire, yani, c'est seulement nafila. Tu veux faire, tu veux pas faire. Ensuite, on descend un peu. Le troisième, c'est le permis. Seulement permis. Ce n'est ni conseillé ni rien. C'est seulement permis. Ça s'appelle en arabe, ils disent le moubah. Moubah, c'est seulement permis. Je donne un exemple. Manger des oranges. C'est seulement permis. Personne, là, je ne m'a pas dit manger des oranges. Le prophète m'a pas dit manger des oranges, sallallahu alayhi wa sallam. C'est permis. Je veux manger, je veux ne pas manger. Grimper un arbre. C'est permis. Dormir, manger, tout cela, c'est des choses permises. Ça s'appelle le permis, ça s'appelle en cette matière, ça a bien sûr un mot technique, ça s'appelle le moubah. Moubah, ça veut dire Allah Azza wa Jalla l'a permis. Ensuite, quatrièmement, c'est le makruh. Le makruh, ça peut être le déconseillé. Makruh. Yani, Allah Azza wa Jalla t'a demandé de ne pas le faire, mais il n'a pas insisté, pas avec insistance. Le détestable. Naam. Allah Azza wa Jalla t'a demandé de ne pas le faire, mais, yani, sans insister. Les ulama donnent, par exemple, je donne beaucoup d'exemples. Moi, maintenant, j'ai deux exemples, par exemple, en ma tête. Par exemple, pour l'homme, quand il fait la prière, et il laisse sa tête découverte. Il ne met pas quelque chose sur sa tête. Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah dit, sa prière est détestable, makruh. Ce n'est pas haram, c'est seulement makruh. C'est-à-dire que on t'a demandé de ne pas faire cela, mais on n'a pas insisté. Ça veut dire, si tu fais, tu fais. Mais on t'a demandé de ne pas le faire, yani, si tu peux ne pas le faire, ou là tu veux aussi ne pas le faire. Par exemple, donner quelque chose, un deuxième exemple, donner quelque chose avec la main droite, avec la main gauche, donner à quelqu'un un livre ou un stylo, une orange avec la main gauche, ça c'est détestable, c'est makruh. Prendre avec la main gauche, prendre quelque chose, quelqu'un te donne une chose, tu la prends avec la main gauche, c'est détestable, c'est makruh, ce n'est pas haram. Manger avec la main gauche, c'est haram. Boire avec la main gauche, c'est haram. Et pourtant, les quatre verbes sont venus dans le même hadith. Le même hadith a dit, si tu manges, mange avec la droite, car le diable mange avec la gauche. Si tu bois, bois avec la droite, c'est le diable qui boit avec la gauche. Si tu donnes quelque chose, donne avec la main droite, c'est le diable qui donne avec la gauche. Si tu prends, prends avec la main droite, c'est le diable qui prend avec la main gauche. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire la différence? Pourtant, les quatre verbes sont venus dans le même hadith. Les quatre verbes. Pourquoi? Lorsqu'on donne et on prend, on dit c'est seulement détestable. Et lorsqu'on mange et on boit, on dit c'est haram. Et pourtant, les quatre verbes sont venus dans le même hadith. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu donnes et tu prends, tu t'es ressemblé au diable. C'est le diable qui donne et qui prend avec la gauche. Et quand tu manges et tu bois, tu t'es aussi ressemblé, tu t'es ressemblé au diable. C'est lui qui boit et qui mange avec la gauche. Mais quand tu donnes et tu prends, le maximum de ce que tu as fait, tu l'as ressemblé. Voilà la faute. Tu as ressemblé au shaitan. Shaitan, il ne faut pas le ressembler. C'est un ennemi. Mais quand tu bois et tu manges avec la gauche, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'aides à manger avec toi. Parce que il mange avec toi quand tu manges avec la main gauche et il boit avec toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc tu fortifies, tu l'aides à le fortifier. Et c'est qui? C'est l'ennemi d'Allah et notre ennemi, notre plus grand ennemi. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna shaytan lakum adou. Le diable c'est votre ennemi. Inna shaytan lakum adou. Fattakhidouhu adouan. Prenez-le comme ennemi. Donc, quand tu donnes à un ennemi quelque chose, ou tu lui prends quelque chose, c'est pas comme tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger. Tous, on a un diable avec nous. Il est en train de nous guetter. Dès que tu bois avec la gauche ou la droite, il est avec toi. Il prend le verre avec toi et il boit. Il est avec toi en train de manger. Dès que tu fais le rapport avec ta femme, tu dis pas Bismillah, comme Jannibna Shaitan ou Jannib Shaitan Malazakhna, il fait le rapport avec toi, avec la femme. Ensuite, ils seront deux à être qui? À être Shurka. Comment on dit Shurka en français? Ils sont deux à être associés. Ils vont être associés en cet enfant. Parce que l'homme a fait, le Shaitan a fait aussi. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adim. Pour ceux qui ne donnent pas beaucoup d'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà un dars pour eux. Voilà un dars pour celui qui s'approche de la femme sans dire bismillah, sans faire le doua. Ensuite, il y a cinquièmement, il y a le haram. Le haram, c'est le, je sais pas comment on dit en français, le haram, ça veut dire, faut pas le faire le haram, alors. Il ne faut pas le faire, c'est haram, c'est illicite. Haram, barakallahu fik, illicite. Faut pas faire le haram, c'est illicite. Je répète parce que je veux expliquer des choses. Je répète parce que je veux expliquer des choses. Allah Azza wa Jal, toujours. Ou bien, je vais diviser en deux grandes choses. Le hukm hadal usuli, je le divise en deux grandes choses. Allah Azza wa Jal, quand je dis Allah Azza wa Jal, ça veut dire son prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, ou bien, dans tout le Coran et dans toutes les sunnas, dans toute la sunnah et les hadiths, ou bien il te demande de faire une chose, ou bien de ne pas faire une chose et t'éloigner d'elle, ou bien ils te font choisir. Suivez bien ce raisonnement, il est très logique et simple. Inch'Allah ta'ala, ensuite je vous enlever le point rouge et vous allez me le dire comme ça, je vais l'écouter dans le micro, tu vois si vous avez compris. Allah Azza wa Jalla, son prophète, ou bien ils vont te dire, fais cette chose, ou bien ne la fais pas, ou bien choisis, tu es libre. S'il te dit fais une chose, ou bien il insiste pour que tu la fasses, ou bien il n'insiste pas. Ou bien il te dit fais-la avec insistance, ou bien il te dit ne la fais pas, et ne fais-la, mais sans insistance. Et quand il te dit ne fais pas une chose, ou bien il te dit ne la fais pas, il insiste, ou bien il te dit ne la fais pas sans insister. Ou bien il se fait choisir entre faire et ne pas faire. Donc, quand il te dit de faire une chose avec insistance, ça s'appelle l'wajib, l'obligé. L'obligé. Quand il te dit de ne pas faire la chose, de faire la chose et sans insistance, il n'insiste pas. C'est seulement le mendoub, c'est seulement le deuxième, c'est un nafila, c'est sunna seulement. Sunna. Maintenant, quand il te dit de ne pas faire une chose, il te dit ne la fais pas, mais il insiste, ça s'appelle haram, illicite. Mais s'il te dit ne la fais pas, mais il n'insiste pas, ça s'appelle seulement détestable. Et maintenant, si il te dit tu es libre, fais ou ne fais pas, ça s'appelle mubah, permis, c'est tout. Je répète, inshallah ta'ala, pour ceux qui n'ont pas compris. Allah Azza wa Jal, ou bien il te dit fais, ou bien il te dit ne fais pas. S'il te dit fais avec insistance, ça s'appelle l'obligatoire. S'il te dit fais et n'insiste pas, ça s'appelle seulement, je ne sais pas comment je l'ai appelé en français, ça s'appelle seulement le recommandé. C'est recommandé, c'est tout. Maintenant, au contraire, s'il te dit ne fais pas avec insistance, ça veut dire c'est haram, attention, c'est illicite. S'il te dit ne fais pas sans insister, ça s'appelle seulement makruh, yani c'est déconseillé. Cinquièmement, qu'est-ce qu'il reste? Il te fait choisir. Il te dit fais ou ne fais pas. Ça s'appelle le permis. Bon, attendez pour voir si je parlais dans le vide ou là. Il y a ce bon sœur. Cheikh, Abu Khuzaima veut dire quelque chose. Qui c'est Abu Khuzaima? Abu Khuzaima, qui c'est? Tfadl, Abu Khuzaima, où es-tu? Où est d'abord Abu Khuzaima? Où est Abu Khuzaima? Qu'il lève la main pour que je le voie, Abu Khuzaima. Non. De toute façon, j'aurais aimé que ça soit dans les questions. J'aurais aimé que ça soit dans les questions. Mais Malik, où est-ce qu'il est? Qu'il fasse vite seulement. Où est-ce qu'il est, Abu Khuzaima? Tfadal, Abu Khuzaima. Tfadal, Barakallahu fik. Tfadal, je t'ai donné le micro. Non, Jazakallahu khair. C'est la même chose. C'est ce que je veux dire. Quand tu fais la prière et tu n'as pas mis quelque chose dans cette, sur ta tête, pas dans, sa, dans ta tête. Quand on ne met pas quelque chose sur sa tête, ça veut dire qu'on a fait un mekroh. On a fait un mekroh. Naam, la prière, c'est la prière, elle ne change pas. Mais tu as fait un mekroh. Ça veut dire tu as fait rendre ta prière au lieu qu'elle soit parfaite. Naam, au lieu qu'elle soit parfaite, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un mekroh. Naam, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un détestable. Naam. C'est pour ça que des fois, la prière, elle a des chokm. Des fois, on dit, c'est une prière, on dit, batela. On dit, batela. Des fois, on dit, la prière, elle est valable. Et ainsi de suite. Donc, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Maintenant, je donne à, où est-ce qu'il est, le but de la vie, le but de la vie. Tfadal, résume-moi très vite à tous les cinq choses. Jazakallahu khairan. Résume-moi très vite les cinq choses à dos avec le micro. Barakallahu fik. Mais j'aime chez Abu Khuzaima, quand c'est quelque chose qui nous fait faïda, tafadal, quand c'est quelque chose qui fait faïda. Non, le but de la vie, répète ce que je viens de dire très vite avec les cinq choses. J'aurais préféré quelqu'un qui prenne le micro pour me dire les cinq choses comme ça très vite. Mais allez, j'écris, on aura besoin de les choses. On aura besoin d'elles, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Islam, tafadal. On entend, Inch'Allah. Bon, puisqu'il n'a pas parlé, pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala. J'ai une question, mais je vais attendre la question, Inch'Allah. Naam, attends la question, Inch'Allah Ta'ala. Sauf, je vais répéter très vite. Attends, voir Oum Aliya, qu'est-ce qu'elle a? Oum Aliya, tafadal. C'est quoi exactement? Je fais une révision très vite. Hein. D'ailleurs, ce qu'il a écrit ici, ce qu'Allah nous a dit de faire avec insistance, c'est wajib. Si c'est sans insistance, c'est seulement mundoub. Quand il nous dit de ne pas faire une chose avec insistance, c'est haram. Quand c'est sans insistance, c'est makruh. Et quand on a le choix, c'est mubah. Voilà, inshallah ta'ala, vous avez compris. Makruh, c'est déconseillé. Naam. Makruh, c'est déconseillé. C'est le déconseillé. Je répète très vite. Quand l'Azawj nous dit, l'Azawj est son prophète, ou bien ils nous disent faites, ou bien ne faites pas, ou bien choisissez. S'ils nous disent de faire, s'ils insistent, c'est wajib et fard. S'ils n'insistent pas, faites, mais sans insister, c'est seulement mendoub. Maintenant, s'ils nous disent ne faites pas, ils insistent, on dit c'est haram. Et s'ils nous disent ne faites pas, ils n'insistent pas, c'est seulement déconseillé. Et s'ils nous font choisir, c'est le makruh. Maintenant, quels sont les hukm, yani, quand on fait un makruh, ou là on fait un haram, ou là on fait, yani, quelle est la différence? Quelle est la différence? Ça c'est très important, il faut bien le comprendre, barakallahu fikum. Ça c'est très important. Le wajib, ce que Allah Azza wa Jalla t'a dit de faire avec insistance, son jugement, son hukm, c'est, si tu le fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Si tu ne le fais pas maintenant, sans avoir de raison, tu as un ism, tu as un péché. Je répète, pour la première sorte, qui est le wajib et qui s'appelle fard aussi, l'obligation. Quand on dit une chose est obligatoire, il faut que tu te mettes dans la tête cette chose. C'est quoi? C'est que si je la fais cette chose, en la cause d'Allah, je vais avoir un ajr. Si je ne la fais pas cette chose, sans avoir de raison, je vais avoir des péchés. Je répète, l'obligatoire. J'ai dit, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as un ajr. Qu'est-ce que ça veut dire en la cause d'Allah? Pourquoi j'ai mis entre parenthèses entre la cause d'Allah? Parce que tu peux faire la prière, c'est pas à cause d'Allah. À cause des gens, par exemple. Quand tu es à la maison, tu fais jamais la prière. Dès que tu vois les invités venir ou là, tu commences. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est pas à cause d'Allah, à cause de cette personne. Et pourtant, tu as fait quelque chose qui s'appelle l'obligé, tu as fait la prière. Mais tu n'as pas l'ajr. Pourquoi? Il faut la faire en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, pendant le ramadan, jeûnent, ils font le jeûne, mais ce n'est pas pour la cause d'Allah. Ils te disent, c'est les médecins ont conseillé ça. Ils disent, il faut rester un mois sans manger, le ventre, inshallah, on va, c'est un médicament. Donc il a fait quoi? Il a fait le jeûne, masha'Allah. Le jeûne, c'est une obligation. Mais il ne l'a pas fait en la cause d'Allah. À cause de son corps, ou là, à cause de ceci. Donc celui-là, il ne va pas avoir le hajr. Donc l'obligation, déjà, moi j'ai lu une fois, j'ai entendu, un professeur, une femme, un professeur à l'université en Allemagne. Elle disait chaque matin, elle était professeure d'arabe en Allemagne et professeure d'arabe à l'université. Elle disait, moi chaque matin ou là chaque soir, il faut que je lise 5 ou 6 pages du Coran. Pourquoi tu lis? Je lis pour que ma langue se dénoue. Alors vous voyez, lire le Coran, c'est masha'Allah. C'est pas une obligation, ça rentre dans la deuxième sorte. C'est un mendoub, c'est quelque chose de conseillé. Mais cette femme ne l'a fait pas à cause d'Allah. Ça veut dire qu'elle n'a aucun ajr, aucune hasana, rien n'est écrit. Donc l'obligation, c'est ce qu'on fait. C'est si on l'a fait en la cause d'Allah, avec cette condition, en la cause d'Allah, on a ajr. Maintenant, si on ne l'a fait pas, sans avoir de raison, on a des ithm, des péchés. Je ne veux pas faire la prière du Asr aujourd'hui, je ne la fais pas. J'ai des péchés. Voilà donc l'obligation. Je ne vais pas jeûner pendant le ramadan, je vais manger un jour. Voilà. C'est un péché, j'ai des péchés. Et je dis, j'ai dit autre parenthèse, sauf si on a des raisons. C'est quelque chose que si tu ne la fais pas, sans raison, tu as des péchés. Des fois, tu ne fais pas l'obligation, mais tu as des raisons. Tu as des raisons. Par exemple, la salat de Asr, par exemple, c'est à 3 heures de l'après-midi. Moi, je m'endors à 2 heures de l'après-midi, 14 heures, je me réveille à 20 heures du soir. J'étais fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, je n'ai pas fait une obligation qui est la salat. Mais je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Je n'ai pas voulu la faire? Non, je ne l'ai pas faite avec des raisons. J'ai dormi, je ne me suis pas réveillé. Je ne savais pas que j'allais pas me réveiller. Peut-être que j'ai mis même devant moi un réveil et je ne l'ai pas entendu. Donc, je n'ai pas de péché dans ce cas. Donc, l'obligation, je répète, une obligation, c'est la chose que si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as des hasanat et des ajr. Et si tu ne l'as fait pas sans raison, tu as des péchés. Elle est pour la première. Maintenant, le mendoub, la deuxième, quand on a parlé de l'obligation, ensuite, deuxièmement, on a dit la sunna, la surérogatoire. On a dit le conseiller, quelque chose qui est conseillé. J'ai donné par exemple, celui qui fait par exemple, il va jeûner par exemple l'Ashura. C'est pas obligé, c'est conseillé. Il va jeûner chaque lundi, chaque jeudi, il jeûne. C'est pas obligé. C'est quoi? C'est recommandé. Ça s'appelle sunna, mendoub, nafila. Cette chose-là, c'est quoi? Cette chose. Voilà la différence entre elle et la première et l'obligation. Cette chose-là, la deuxième, comme jeûner par exemple le Ashura, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as un ajr. Donc ici, il n'y a pas de différence entre celle-là et l'obligation. Celle-là et l'obligation, les deux, si tu les fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Mais la deuxième, celle-là, si tu ne la fais pas, même sans raison, tu n'as pas de péché. Voilà la différence. Ça veut dire, elle se joint avec l'obligation dans la première partie. L'obligation et celle-là, qui s'appelle le conseiller, si tu les fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Mais la première, l'obligation, si tu la fais pas, sans raison, tu as un ithm, tu as des péchés. Et cette deuxième, si tu la fais pas, même sans raison, tu n'as rien. C'est lundi prochain, nous sommes lundi, nous sommes mardi, jeudi, dans deux jours, c'est conseillé de faire le siyam, de jeûner. Moi, je vais pas jeûner. Pourquoi? Je n'ai pas de raison, je veux pas. J'ai faim, je veux boire du jus de fruits, je veux manger les oranges, je veux pas faire. Je n'ai pas de péché. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose seulement de conseiller. Si je fais le conseiller en la cause d'Allah, j'ai des hasanat, j'ai des ajr. Si je ne fais pas le conseiller sans raison, je n'ai pas de péché. Maintenant, on va au milieu. Au milieu, on a dit, ça s'appelle le permis, mubah. Le mubah, si tu le fais, tu n'as rien. Si tu ne le fais pas, tu n'as rien. Tu manges des oranges, tu n'as rien. Tu ne manges pas, tu n'as rien. tu montes dans la voiture, tu n'as rien, tu descends de la voiture, tu n'as rien. Tu escalades, tu montes un arbre, tu n'as rien, tu vas, j'allais dire, tu vas à la mer, il y a des conditions. Supposons que je sois à la mer, il n'y a ni femme ni rien, et je nage, je n'ai rien, je ne nage pas, je n'ai rien. Ça s'appelle permis, c'est tout, c'est permis. Mais le permis, si tu le fais, des fois le permis est là, qui est seulement permis, des fois tu peux le transformer en quoi ? En conseiller et tu auras des ajra. Par exemple, je donne un exemple très simple. Manger, c'est seulement permis. Maintenant, moi je vais manger avec l'intention de, pour devenir fort et pouvoir faire la prière la nuit. Je vais manger pour devenir fort. Et s'il y a le djihad, je vais le faire quand je suis fort. Maintenant, c'était seulement permis, mais maintenant j'ai changé l'intention. J'ai mis l'intention à cause d'Allah. Donc là, à une chose permise, Allah Azza wa Jal va me donner l'ajr. Regardez par exemple, s'approcher de sa femme, c'est seulement permis. Je ne veux pas me rapprocher, il y a une limite. Il y a certaines limites. Ensuite, c'est obligé de s'approcher, sinon tu divorces, bien sûr. Et par exemple, disons, je ne suis pas obligé de m'approcher chaque jour. Mais si quelqu'un fait l'intention, il dit, aujourd'hui, je vais m'approcher de ma femme avec l'intention que si Allah Azza wa Jal donne un enfant, pour que je lui apprenne le Coran. Ah là, ça a changé. C'était seulement permis, c'est devenu maintenant, tu as un ajr. Pourquoi ? Le permis, tu peux le rendre. Tu peux le rendre comment ? Tu peux le rendre. Tu peux avoir un ajr dans le permis si... Tu fais l'intention que c'est pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas acheter des choses pour le manger. Tu vas acheter des choses. Des fois, il y a des choses que tu n'es pas obligé d'acheter. Mais si avant de les acheter, tu vas dire, je vais les acheter, car il y a un hadith qui dit que chaque... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que, Christophe, non, j'étais au makruh, déconseillé. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est déconseillé? J'ai dit, déconseillé, c'est Allah Azza wa Jal qui te dit de ne pas faire, mais sans insistance. Il n'a pas insisté. Il a dit, ne fais pas cette chose. Par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand un homme fait la prière avec la tête découverte, ou bien, par exemple, donner avec la main gauche, etc. Ça, c'est déconseillé. Mais son jugement, c'est quoi? Si tu fais le déconseillé, tu n'as pas de hit. Si tu le fais, tu fais le deux. Il t'a dit de ne pas faire sans insistance. Toi, tu vas le faire. Tu n'as pas de péché. Mais si tu ne le fais pas, tu dis je ne le fais pas puisque c'est déconseillé, tu as des ajr, tu as des hasanat. C'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure dans la sunna, le mendoub et la surérogatoire. C'est le contraire exactement. Quelque chose qui est déconseillé sans insistance, makruh. Vous lisez beaucoup dans les livres, ça c'est makruh. Vous entendez les ulama dire makruh. C'est quoi makruh? Ça veut dire, là, tu as dit de ne pas faire sans insister. Donc si tu le fais, puisqu'il n'a pas insisté, donc si je le fais, je n'ai pas d'ithm. Et si je ne le fais pas, j'ai un ajr. J'ai un ajr pourquoi? Pour avoir obéi à Allah Azza wa Jalla qui m'a dit de ne pas le faire. Donc il va te donner un ajr, bien sûr, à condition que tu ne le fasses pas. Makruh, détestable, naam. Le makruh, le détestable, naam. Le détestable, si tu le fais, tu n'as pas de péché. Et si tu le fais pas, tu as de ajr à condition que tu ne le fasses pas. Pourquoi? En la cause d'Allah. C'est pas tu ne le fais pas parce que tu ne peux pas le faire. Non. Tu ne le fais pas en la cause d'Allah. Là, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des ajr, inshallah ta'ala. Maintenant, dernière des choses, le haram, l'illicite, c'est ce que Allah Azza wa Jalla t'a dit de ne pas faire avec insistance. Si tu le fais, jugement, si tu le fais, tu as des péchés. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le fais pas en la cause d'Allah, tu as un ajr, un grand ajr. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit de ne pas le faire et tu ne l'as pas fait. Et la différence entre lui, l'illicite et le makruh, l'illicite et le makruh se rejoignent en une chose, laquelle les deux. Si tu ne les fais pas, tu as un ajr. Si tu ne les fais pas en la cause d'Allah, tu as un ajr. Parce que l'Azul t'a dit de ne pas les faire. Mais et ce, il y a une différence entre eux, l'illicite, pardon, le makruh, le détestable, quand tu le fais, tu n'as pas de ithm, tu n'as rien, parce que là je n'ai pas insisté, et le haram, quand tu le fais, tu as un ithm, sauf si tu le fais bien sûr, tu as des raisons. Par exemple, je te mets par exemple un revolver sur la tempe et je te dis bois l'alcool. L'alcool c'est haram de boire, ça c'est illicite. Bois l'alcool, sinon je te tue. Là si je bois, je n'ai rien, je n'ai pas de péché. Pourquoi? Dans mon cœur, je n'aime pas cela, je le déteste si c'est haram. C'est celui-là qui m'a forcé avec un revolver. Si maintenant je vais mourir de faim, il y a seulement du porc devant moi, du sanglier devant moi, il n'y a rien d'autre chose. Maintenant, ou bien je meurs de faim, ou bien je vais manger l'illicite, le haram. La plupart des ulama ont dit, si tu ne manges pas et tu laisses jusqu'à ce que tu meurs, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azzawajal lui-même qui t'a permis. Donc, pourquoi tu ne veux pas prendre avec ses permissions? C'est lui qui t'a dit, si tu vas mourir, ne meurs pas, sauve ta vie, mange, je te permets, mange maintenant, mange seulement un peu juste pour vivre, et je ne vais pas rentrer en enfer. Toi tu dis non, moi je ne mange pas, je vais mourir. Alors tu vas mourir, alors tu t'es tué, tu n'as pas voulu prendre la permission que Allah Azza wa Jal t'a donnée. Ça, c'est en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le haram, naam, suicider, en ce qui concerne le haram. Et les ulama ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit, quand on est comme ça, on est contraint par exemple de manger le haram ou là, si l'animal est vivant, il a dit, si l'animal est vivant, tu dois l'égorger comme on égorge un mouton. Si l'animal est vivant, je meurs de faim, je n'ai trouvé ni à droite ni à gauche de quoi manger, je suis dans un désert, j'ai seulement un couteau avec moi, et j'ai rencontré un sanglier. Maintenant, il faut que je mange ce sanglier. Je n'ai pas autre chose, ni lapin, ni rien. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le manger sans l'égorger. Le sanglier, en principe, ça ne s'égorge pas. Tu dois l'égorger, dire Bismillah et l'égorger. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah. Darwa tunizm, l'indilat mubah. Parce que ici, ce haram est devenu mubah. Il est devenu, tu peux le manger, il n'est plus haram. Et quelque chose qui n'est plus haram, c'est devenu comme un mouton. Ici, le sanglier est devenu un mouton. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus haram dans le cas où tu es. Donc, tu dois l'égorger avant de le manger. Si tu le trouves mort, bien sûr, tu le manges mort. Et tu manges, ce n'est pas juste un, comme on dit en français, rassasié. Je mange un kilo et je profite et je dis, oh, celui-là, comme il est bon, hein. Allez, ça, dans ma vie, j'ai pas mangé. Laisse-moi profiter aujourd'hui. Ça, c'est haram. Ça, tu es rentré dans le haram. Tu manges seulement pour pouvoir vivre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit, il est même permis pour quelqu'un qui sait qu'il va aller loin, et la route est longue, 1000 km dans le désert, et qu'il va rencontrer le même problème, il a dit, lui est permis même de prendre un peu avec lui dans un sachet. Il prend un peu avec lui, pourquoi? Parce qu'il va marcher encore 40 km et c'est toujours le même problème. Je vais mourir de faim, et ensuite, où est la chose que je vais manger? Il a dit, tu prends avec toi et tu vois. Si tu trouves après le halal, tu jettes le haram. Si tu ne trouves pas, tu manges jusqu'à ce que tu arrives où tu vas trouver le halal, inshallah ta'ala. Je vais me répéter en ce qui concerne seulement le jugement de ces cinq choses. Ensuite, inshallah ta'ala, je vous écris maintenant Ibn Taymiyyah, votre mail. Pardon, Allah, vous connaissez Ali. Votre mail.com. Ensuite, je demande à quiconque a assisté à ce dars de m'écrire à cette adresse ibn-taymiyyah@hotmail.com. Il me répète ce que je vais dire maintenant en ce qui concerne le jugement des cinq choses. J'ai dit, en ce qui concerne le wajib, en ce qui concerne l'obligatoire, si tu le fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Si tu ne le fais pas sans raison, tu as un ithm. Si tu ne le fais pas sans raison, tu as un ithm. Naam, je vais te donner la parole, inshallah. Je vais te donner la parole maintenant. Je répète l'obligatoire. Si tu le fais en la cause d'Allah, celui qui ouvre la parenthèse en la cause d'Allah, il a zéro. parce que je l'ai fait à cause des gens. Celui qui fait l'obligatoire en la cause d'Allah, il a un ajr. Ajr, ça veut dire hasanat, des bienfaits. Celui qui ne le fait pas, mais il a des raisons, pardon, sans raison, il a un ithm, il a des siyyat, c'est un péché. Alors, l'obligatoire. Ensuite, le mendoub, le surrogatoire, seulement conseiller, le conseiller. Il t'a conseillé de le faire. Si tu le fais, en la cause d'Allah, tu as un bienfait. Si tu ne le fais pas, même sans raison, tu n'as pas de péché. Car il t'a conseillé sans insistance. Ensuite, troisièmement, on a le permis. Le permis, tu le fais, tu le fais pas, tu n'as ni ajr, ni bienfait, ni mal fait. Sauf dans un cas, quel est le cas? Si tu le fais, le mubah, le permis, tu le fais avec l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux faire quelque chose en l'intention d'Allah, ta permis zadi va devenir quoi? Tu auras un ajr à cause d'elle. Quatrièmement, le déconseiller, le makruh. Le déconseiller, le makruh. Si tu le fais, tu n'as pas de tu n'as pas de péché, tu n'as pas de mal fait. Pourquoi? Parce que il t'a déconseillé sans insistance. Mais si tu ne le fais pas, si tu le laisses, tu ne le fais pas en la cause d'Allah, tu as un ajr. Tu as un ajr. Pourquoi? Parce que j'ai laissé cette chose, je l'ai laissé en la cause d'Allah. C'est lui qui m'a dit de ne la pas faire. Il m'a déconseillé. Donc, je ne l'ai pas faite. Donc, j'ai un ajr. Et enfin, l'illicite, le haram. Si tu le fais, le haram, sans être contraint de le faire, tu le fais toi-même, tu vas le faire, tu as ithm, tu as des péchés, un mal fait, tu as siyyat. Mais si tu ne le fais pas en la cause d'Allah, c'est parce qu'Allah t'a dit de ne pas le faire, il a insisté, tu as quoi? Tu as des hasanat, tu as des ajr. Tu as des ajr. Je souhaite à Allah Azza wa Jalla qu'il vous ait ouvert vos cœurs pour comprendre cela. Pour cela, c'est très important. Mais en fin de compte, c'est simple. C'est presque mathématique. C'est comme des mathématiques. Seulement, il y a force d'entendre ces choses, ça devient par la suite très facile. Ensuite, tu vas remercier Allah Azza wa Jalla quand tu lis un livre, ou là tu entends un alim. Il y a un alim qui est en train de parler dans une cassette, ou là à la télé, je ne sais pas quoi. Il dit ça, c'est mendoub. Répétez s'il vous plaît la troisième et la quatrième. Il y a quelqu'un qui me dit répétez la troisième et la quatrième. La troisième, j'ai dit le permis. Mubah, c'est seulement permis. Tu le fais ou tu le fais pas, tu n'as ni ajr, tu n'as ni yani, bien fait, ni mal fait. Parce que c'est seulement permis. C'est comme manger des mandarines. Tu manges pas, tu n'as ni hasanat, ni sayyat. Mais si tu manges avec une autre idée, avec l'intention de faire quelque chose en islam, ou de faire une adoration, ou là, Allah Azza wa Jalla va te donner un ajr. Le troisième. Le quatrième, c'est le makruh. Makruh, déconseillé. Déconseillé sans insistance. Si tu le fais pas, en la cause d'Allah, tu vas avoir des hasanat. Parce que tu l'as pas fait en la cause d'Allah. Parce que lui, il t'a dit de ne pas le faire, même si c'est sans insistance. Et si tu ne le fais pas. Et si tu le fais, le makruh, si tu le fais, tu n'as pas de péché. Pourquoi? Parce que quand il t'a déconseillé, il n'a pas insisté. Hein? C'est comme par exemple, maintenant l'exemple. Maintenant, on va commencer le dars, inshallah ta'ala, t'as les ablutions. Ah, j'ai oublié une chose importante. D'accord. J'ai oublié une chose importante. Quand j'ai parlé en haut, le premier, j'ai parlé de l'obligation, j'ai dit l'wajib. L'wajib, l'obligation. Je voudrais vous dire une chose ici très très importante. L'wajib hada, naam. Je te donnerai le micro dans, inshallah ta'ala, 10 secondes. L'wajib, regardez vos notes si vous avez écrit, l'wajib en haut, première des choses, l'obligation, l'wajib. L'wajib hada, il se divise aussi, bien sûr, il se divise en 4 ou 5 sortes. Aujourd'hui, on va parler d'une seule sorte. Il se divise en mutlaq, muqayyad, mu'ayyan. Il se divise en beaucoup de choses. Mu'aqqat. Bref, maintenant, on va parler d'une seule chose qui est importante. L'obligation, al-fard, des fois, on l'appelle. Il y a deux sortes. Une sorte, ça s'appelle l'ayni. Une sorte, ça s'appelle kifa'i. Je vais donner des exemples pour que vous compreniez. l'obligation, le fard, se divise en deux. Obligation aïni. Aïni en arabe, ça veut dire une obligation que chaque personne doit faire. Et kifa'i, c'est la deuxième sorte, c'est une obligation que ce n'est pas tout le monde doit la faire. Mais elle-même, l'obligation, si elle a été faite, khalas, deux ou trois la font, ça suffit. Je donne un exemple. L'obligation, la première, j'ai appelé aïni. Aïni, ça veut dire l'obligation personnelle que chaque personne doit faire. Par exemple, la salat, la zone quand il a dit fait la prière, les saintes prières. Est-ce qu'il y a quelques gens vont dire, bon, puisque mon père et ma mère font la prière, c'est pas la peine que je la fasse. Non, c'est une obligation personnelle que chacun doit faire. Ça s'appelle aïni. Et la deuxième sorte, il y a des obligations en islam, ça s'appelle kifa'i. C'est pas personnel, c'est pour un groupe. Ça veut dire, si un groupe l'a fait, ça suffit. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est mort. Ne doit-on pas obligatoirement le laver et l'enterrer? Si, obligé. C'est obligatoire. Maintenant, puisque c'est une obligation. Donc, est-ce que tout le monde va le laver et tout le monde va l'enterrer? Nous sommes 500 000 dans une ville, il y a quelqu'un qui est mort. Nous tous, les 500 000, on va rentrer dans sa chambre pour le laver, et les 500 000, on va prendre son cercueil. C'est impossible. On va rentrer dans sa chambre, 1, 3, 5, juste pour le laver. Et vont porter le cercueil, 4 personnes, et il y a des gens qui suivent derrière. Pas tout le monde va aller à cette djinaza, ça s'appelle djinaza. Pourquoi? Parce que c'est une obligation, ce n'est pas personnel. C'est une obligation que tout le monde doit faire. Naam, comme la cigarette. Barakallahu fik, je vais parler de la cigarette. Naam. Donc, l'obligation, elle se divise comment? Obligation personnelle que tout le monde doit faire. Et obligation par groupe, ça veut dire si les uns la fassent, ça suffit. On n'est pas obligé tous de la faire. Et ici, ceux qui vont faire cette obligation qui n'est pas personnelle, par exemple, ceux qui vont laver le mort ici, dans notre cas, il y a trois personnes qui vont laver le mort. Lorsqu'ils le lavent, eux, les trois qui l'ont lavé, vont avoir des hasanettes. Des hasanettes, pourquoi? Parce qu'ils l'ont lavé. Et nous, les 400 997 qui n'ont pas lavé, parce que j'ai dit on était 500 000, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont? Ceux-là, alhamdoulilah, ils ne vont pas avoir de ithm. Ils ne vont pas avoir de ajr, de bienfait, parce qu'ils n'ont pas lavé, mais ils ont échappé à une chose, ils ne vont pas avoir le ithm, ils ne vont pas avoir le péché. Mais si nous tous, les 500 000, on ne va pas le laver, on ne va pas faire cette obligation qui est une obligation de groupe, qui n'est pas une obligation personnelle, qu'est-ce qui va se passer? Nous tous, les 500 000, on va avoir un péché. Donc je répète la dernière fois, les obligations de sorte, il y a personnel. Tout le monde doit la faire. Quiconque ne fait pas l'obligation personnelle, comme le jeûne, comme le siyam, comme le hajj pour celui qui a de l'argent et qui peut. Quiconque ne le fait pas, il a un péché. Sauf s'il a des raisons, bien sûr. Et la deuxième sorte, ça s'appelle groupe de groupe, une obligation de groupe. Là, dans cette obligation, il ne voit pas quels sont les gens qui vont la faire. Il voit est-ce que la chose a été faite ou non. Tandis que dans la première obligation, l'obligation personnelle, il voit chaque personne. Il veut que chaque personne la fasse. Mais dans cette deuxième sorte, il ne voit pas qui va la faire. Il voit est-ce qu'elle a été faite ou pas. Si elle a été faite, le groupe qui l'a fait va avoir des hasanettes. Et tous ceux qui ne l'ont pas fait, alhamdoulilah, ils ne vont pas avoir de ithm. Mais si tous ne vont pas laver le mort, par exemple, et l'enterrer, tous, les 500 000 ou les 5 millions, je ne sais pas comment qui sont, tous ceux-là, ils vont avoir un ithm. Donc, par exemple, la médecine. C'est une obligation la médecine ou c'est une obligation? C'est pas une obligation, c'est une obligation. Il faut qu'il y ait. Il y a quelqu'un qui m'invite ici, je peux pas. La médecine, il faut qu'il y ait dans la nation des médecins. Il faut que chaque ville au moins ait, je sais pas, 5-10 médecins, d'après combien il y a d'habitants dans la ville. La médecine, c'est une chose obligatoire. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, t'es de où? Abu Daoud ou Sanad Sahih, t'es de où? S'il a dit fa'inna alladhi anzala ad-da anzala ad-dawa. On est obligé de yani de comment on dit tadawu ça, comment on dit tadawu. J'ai oublié comment on dit tadawi. Donc en ce qui concerne les médicaments, quand on est malade, guérir. Ce n'est pas guérir. Se guérir. La guérison, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre verbe. Attends, je vais te le dire. C'est pas guérir, c'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Mais il y a autre chose. Prévention. Non. Se soigner. Barakallahu fikum. Se faire soigner. Naam. Se faire soigner. On doit se faire soigner. Bien sûr, on doit se faire soigner. Ensuite, il y a un peu de conditions. Mais, et c'est pour ça que j'ai dit, donc, la médecine, devenir médecin, c'est une obligation. Mais est-ce une obligation personnelle? Nous tous, les 500 000 qui habitons la ville, on va devenir médecin? Ou là, on va choisir quelques-uns. Par exemple, le gouverneur, on lui envoie la liste, par exemple, des bacheliers. Lui, il voit qu'on n'a pas de médecin. Il va dire, les 10 ceux-là, XXX qui les a choisis, ils doivent faire médecine. Et ceux-là, ils doivent faire médecine. Pourquoi? C'est une obligation de groupe. C'est pas une obligation personnelle. La médecine, l'agriculture, supposez qu'on n'est pas. Il n'y a pas de... Dans ce monde, il n'y a pas les agriculteurs. Tous, ils vont dire, on va faire médecine ou on va faire, je ne sais pas, ingénieur. Qui va nous planter les pommes de terre? Qui va s'occuper des arbres? Qui va s'occuper de la terre? Donc ça, c'est une obligation, mais c'est une obligation qui est seulement de groupe. Si un groupe l'a fait, classe tous les autres, ils ne sont pas obligés de la faire. Ça, c'est en ce qui concerne l'obligé. Je terminerai par une chose que j'ai oubliée. Alhamdoulilah, je me suis rappelé. Quand j'ai parlé de la deuxième chose, j'ai dit, c'est la sunna, c'est le mendoub, c'est la nefila, c'est le conseiller, c'est tout. Le conseiller, quand par exemple jeûner le lundi et jeudi, c'est seulement conseiller. Le conseiller là se divise en deux groupes aussi, comme l'obligatoire. En deux groupes. Il y a le conseiller vivement et le conseiller, c'est tout. Donc deux groupes. Seulement conseiller et conseiller vivement. Sunna, c'est conseiller. Sunna mu'akkada, vivement conseiller. Il y a des sunna, tu fais le jeûne lundi et jeudi, c'est une sunna, c'est conseillé. Tu fais salat, la prière qui s'appelle salat doha. Tu te lèves à 8h30 du matin, à 9h, tu fais 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 12. C'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 8 quand il était à Mecca. Dans un hadith sahih, il a dit faites 12. Donc si tu fais salat doha, c'est conseillé seulement. Tu as un ajr quand tu l'as fait. Mais il y a des choses qui sont conseillées vivement. Comme par exemple, les 12 rak'at de la salat. De fajr. Après ça, avant salat subh, avant la salat du matin, tu fais 2 fajr. Tu les qu'ul ya ayyuhal kafirun, qu'ul wallahu ahad, après l'alhamdulillah. 4 avant le dhuhr. 2 après le dhuhr. Ça fait 4, 6, 8. 2 après le maghrib. 2 après le isha. Naam, recommandé hadith. Elle est recommandée. Elle n'est pas seulement conseillée, elle est recommandée vivement. Ça veut dire sunnah mu'akkada. Par exemple, la salat, donc les 12 que je viens de dire, ça s'appelle salat rawatib. C'est recommandé, c'est mu'akkada. Sunnah mu'akkada. Il y a par exemple le fajr. Le fajr, c'est une sunnah mu'akkada. Le witr, salat al-witr, c'est une sunnah mu'akkada. Comment on fait la différence entre une sunna simple et une sunna mu'akkada? La sunna simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il la faisait, des fois il la faisait pas. Des fois il jeûnait lundi, jeudi, des fois il le faisait pas un mois. Pourquoi? C'est une sunna simple. Mais la sunna, quand elle est recommandée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en principe, il ne la lâche que dans très rare. Très rarement, il la fait pas. Très rarement. Mu'avaba. S'habituer, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait cette chose beaucoup sans la laisser que rarement, on dit c'est quelque chose de recommandé. Et si le prophète alayhi wa sallam fait des choses et des fois il ne les fait pas, on dit c'est une sunna seulement. Elle n'est pas recommandée vivement. C'est pas une sunna mu'akkada. Et pour que vous sachiez, parmi la sunna recommandée elle-même, qui est recommandé, mu'akkada, les ulama ont dit, la plus recommandée des recommandées, c'est salat al-fajr ou salat al-witr, la prière du fajr et la prière du witr. Ce sont les plus recommandés. Des recommandés. Pourquoi? Quel est le délit? Le délit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé la prière du fajr et la prière du witr, même quand il était en voyage. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lui, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, il ne faisait pas les 12 rak'at. Les 12 rak'at dont je vous ai parlé, qui sont, les 12 rak'at sont une sunna recommandée, mu'akkada, et il le faisait pas. Ce qui veut dire que le witr et le fajr sont plus recommandés. Donc, dans la sunna recommandée, il y a plus recommandé, ou il y a recommandé vivement. C'est salat al-fajr et salat quoi? Salat al-witr. Celles-là, ces deux salates, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont recommandées vivement. Celles-là, on ne les lâche, on ne les laisse pas, ni dans le voyage, ni quand tu es, on n'est pas en voyage. Car le prophète, même en voyage, il les faisait. Par contre, les 12 rak'at qui sont recommandés, sunna mu'akkada, il le faisait pas en voyage. Maintenant, en ce qui concerne le jugement, quel est le jugement, la différence entre le jugement de la sunna normale et de la sunna mu'akkada? La sunna normale, comme jeûne et lundi et jeudi, ou bien la prière de la doha par exemple, ou bien par exemple tu fais karam ashura, ça s'appelle sunna faqat, recommandé, c'est tout. Celle-là, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as un ajr, tu as fait la sunna, alhamdoulilah, c'est cause de conseiller. Si tu ne l'as fait pas, tu n'as pas de ithm, alhamdoulilah, tu n'as pas de péché, c'est seulement une sunna, c'est conseillé. Mais maintenant, la sunna recommandée, mu'akkada, si tu l'as fait, tu as un ajr, alhamdoulilah, tu as des bienfaits. Et si tu ne l'as fait pas, tu n'as rien, tu n'as pas de péché. Alors quelqu'un va me dire, alors quelle est la différence entre mu'akkada et l'autre? Les deux, si tu les fais, tu as des bienfaits, tu les fais pas, tu n'as pas de péché, tu n'as rien. Quelle est la différence? La différence, c'est que la sunna simple, quand tu l'as fait, tu as un ajr, quand tu ne la fais pas, tu n'as pas de péché. Et l'autre, la recommandée sunna mu'akkada, quand tu l'as fait, tu as un ajr, mais quand tu ne la fais pas, tu n'as pas de péché, ça veut dire demain quand tu vas rencontrer l'ajr, tu n'as rien, alhamdoulilah. Mais ici, dans ce bas monde, on a le droit de te plaindre. Voilà la différence. C'est pour ça que Ahmed, radiyallahu ta'ala anhu, on lui a dit de quelqu'un, voilà, qui était assis avec lui, ou bien on lui a montré, on lui a dit, celui-là, il ne fait pas la prière du witr. Il ne fait pas la prière du witr. Il a dit, innahu rajulu su. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Siyé, su. C'est quelqu'un de su, celui-là. Et il a dit, je n'accepte pas son témoignage. Si j'ai un mariage, je le fais pas venir pour témoigner. Pourquoi? C'est quelqu'un qui ne fait pas salat al-witr. Donc quelqu'un qui ne fait pas salat al-witr ou salat al-fajr, salat al-witr, salat al-fajr, je viens de le dire, c'est une sunna vivement recommandée. Si tu l'as fait, tu as un ajr, tu l'as fait pas, tu n'as pas de péché devant Allah, mais ici dans cette vie, on a le droit de te plaindre. J'ai un mariage, je t'invite pas comme témoin. Pourquoi tu fais pas la salat al-witr? Pourquoi? Parce qu'elle est recommandée vivement. Mais on parle de ceux qui ne la font pas tout le temps. On parle pas par exemple celui qui, des fois, il ne la fait pas une fois dans sa vie. Ou là. Non, celui qui dit, khlas, moi, je me suffis, je me contente de cinq prières. Je n'ai pas besoin du fajr, je n'ai pas besoin du witr. Surtout, donc j'ai dit, de toutes les prières, c'est le fajr et le witr qui sont les plus importantes. Et peut-être des deux, l'huître est très important. Car Allah Azza wa Jal, comme a dit le prophète alayhi salam, il a dit Allah witr, yuhib al-witr. Allah witr, witr ça veut dire impair. Quand on dit en arabe, c'est impair. Allah Azza wa Jal, witr, et qu'est-ce qu'il aime? Il aime l'huître, la salat al-witr. C'est le prophète alayhi salam, il a dit awtiru, il nous a donné un ordre, awtiru, faites la salat al-witr. Oum Soufiane qui avait posé la question de la cigarette, est-ce que c'est makruh ou c'est haram? Si on dit makruh, ça veut dire que celui qui ne fume pas la cigarette en la cause d'Allah, il a un ajr, et celui qui la fume, il n'a pas de péché. Et si on dit c'est haram, ça veut dire celui qui ne fume pas la cigarette en la cause d'Allah, il a un ajr. Et s'il ne la fume pas, à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a? Il a des hasanat. Attends pas, ma tête n'est pas avec moi. La cigarette, si on dit elle est haram, s'il va fumer, il a des péchés. S'il va fumer, il a des péchés. Mais s'il ne va pas fumer, en la cause d'Allah, il va avoir des ajr. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, celui qui croit que la cigarette est seulement makruh, il s'est trompé. La cigarette, c'est haram. La cigarette, ce n'est pas makruh. La cigarette, quand tu la fumes, tu as des péchés. Parce que en islam, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, la barar wa la dirar. Il n'y a pas en islam quelque chose qui fait mal. Ramenez-moi un garçon de 6 ans et dites-lui, est-ce que la cigarette elle fait mal ou là elle fait pas mal? Il va vous dire elle fait mal. Apportez-moi quelqu'un de 70 ans qui a fumé pendant 40 ans. Je vais rentrer avec lui faire une radio de, je sais pas comment ça s'appelle à l'intérieur, elle dit Kibda wa Keda, et je vais lui montrer comment est devenu ce qu'il a à l'intérieur, elle dit Kibda. Je vais lui montrer le poumon. Je vais lui montrer le poumon, comment qu'il est tout noir, comment qu'il est troué, hein, le poumon, l'âme. Je vais lui montrer comment qu'il est noir, comment qu'il est troué, comment qu'il commence à se... Il y a des sept têtes, hein. Il y a des morceaux déjà qui vont commencer à tomber. Ensuite, il va avoir le cancer très bientôt, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Ensuite, ça veut dire qu'il s'est suicidé. Toute personne meurt à cause de la cigarette, ça veut dire qu'elle s'est suicidée. Parce que Allah Azza wa Jalla t'a dit, il n'y a pas en islam quelque chose qui fait mal. Et vous devez savoir aussi une chose très importante, certains masakin, les gens ne connaissent pas bien le din, etc. Qu'est-ce qu'il va dire miskin, le pauvre? Il va dire, nafsi, c'est mon âme, je suis libre, c'est mon âme, je fais ce que je veux. Je lui dis, non, pardon, ce n'est pas ton âme. C'est Allah Azza wa Jalla qui t'a créé ton âme, il t'a laissé en toi une amana. Il te l'a laissé amen à chez toi. Il te l'a laissé en dépôt. Et demain, quand tu meurs, il va te dire, donne-moi mon amen. C'est comme si je te laisse une voiture dans le garage, je vais faire un voyage un mois et je reviens. Toi, tu prends la voiture, tu vas dans tous les endroits, classe des pneus, classe, il n'y a rien, il y a la fumée derrière, etc. Tu me rends ensuite la voiture, je te dis, pardon, c'est pas comme ça que je t'ai laissé la voiture. Là, je vais te dire, c'est pas comme ça que je t'ai donné, moi, ton corps. Je t'ai donné fort, sain, pur, propre. Tu t'es fait tomber malade. Ensuite, tu t'es fait donner le cancer. Ensuite, tu es mort à cause de cette chose-là. On va te dire non. Si tu veux la cigarette, va construire, hein, achète du plastique, de la cire, construis une poupée et donne-lui la cigarette dans sa bouche. Mets-lui la cigarette dans sa bouche, laisse-la fumer. Celle-là, c'est pas la Zéville qui a créé la poupée. C'est toi qui l'as construite, donne-lui la cigarette jusqu'à ce qu'elle éclate. Ada, ça ne fait rien. Il n'y a pas de bouche qui est là. Mais ton corps, non. C'est la Zéville qui l'a créé, il est chez toi en dépôt. Demain, il te dit, rends-moi la amana, rends-moi. Hein? Nous, on a, par malheur, mal-être, on a un Algérien très connu. Je veux pas dire son nom, il a chanté une chanson très connue. Nafsi wa ana moulaha. Mon âme m'appartient et c'est moi son maître. Il est devenu très très connu avec cette chanson. Nafsi wa ana moulaha. Les Algériens, des machafs dans les années 80 ou là, du matin au soir, nafsi wa ana moulaha, nafsi wa ana moulaha. Non, ce n'est pas nafsek, c'est nafs Allah Azza wa Jal. Wa huwa moulaha. Et c'est lui son maître, c'est pas toi. Ensuite, une chose très grave. Le jour du jugement dernier, tout ce qu'on fait, en péché, etc., va venir avec nous. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min su. Le jour où chaque personne qui viendra trouvera tout ce qu'elle a fait de bien devant elle et tout ce qu'elle a fait de mal devant elle. On va venir rencontrer Allah Azza wa Jal avec des montagnes de péché et des montagnes de bienfaits. Alors quand Allah Azza wa Jal, tu iras avec lui avec des montagnes de cigarettes posées comme ça devant toi. Des paquets de Marlboro, de je ne sais pas quoi, j'ai oublié leur nom, des milliers posés devant toi. Allah Azza wa Jalla te dira, écoute mon serviteur, aujourd'hui, il y a une balance. Il y a une balance, c'est elle qui va peser. Dis-moi, d'après toi, cette montagne de cigarettes, je vais la mettre du côté des bienfaits ou du côté des malfaits? Si tu vas lui dire, ya Allah, mets-la du côté des hasanat, subhanallah al-adhim, ça c'est impossible. Tous les gens vont dire, subhanallah, donc c'était bien de fumer, pourquoi on n'a pas fumé? Donc, si tu vas lui dire, mets-les dans le côté des hasanat, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va mentir. Donc, il ne reste que, tu lui dis, mets-les dans l'autre côté, dans le côté qui, s'il descend, je rentre en enfer. Donc, c'est une grande mouchkila. Ensuite, l'Azel, sûrement, peut-être qu'il te dira, toi, on va te compter ce que tu as fumé, combien ça donne. On va te compter, c'est très vite, l'Azel, il va dire, par exemple, tu as fumé, par exemple, hein, je donne les exemples faux, mais c'est comme ça en euros, hein, il va te dire, par exemple, tu as fumé 10 000 euros. Je ne sais pas combien ça donne, 10 000 euros. Il va te dire, moi, je t'avais ordonné, ou là, je t'avais conseillé, de donner aux pauvres seulement 10 euros si tu les avais donnés, peut-être tu serais aujourd'hui au paradis. Et regarde combien tu as yani, jeté comme ça, 1000 ou 10 000 ou là, je sais pas, 100 000 euros qui sont partis comme ça, en fumée. Et puis quand quelqu'un, l'Azouj, le guide, il fait rentrer yani, il mène dans son cœur, et il déteste cette cigarette et ensuite il ne fume plus parce que c'est l'azol qui aide. Personne ne peut, il va dire demain je vais arrêter la cigarette, sauf s'il fait des doigts à Allah pendant un jour et nuit pour qu'il l'aide et qu'il soit sincère et que khalas, il a une conviction que c'est haram. Dans ce cas, entre parenthèses, dans ce cas, celui qui veut arrêter de fumer, je lui donne un conseil, c'est pas la peine qu'il dise je vais arrêter doucement, attends ce mois, Inch'Allah, je vais fumer seulement 2 paquets. Deuxième mois, 1 paquet. Ensuite, une demi-cigarette par jour et je vais arrêter. Ça, c'est impossible. Si tu dis, je vais arrêter, tu vas faire un doua et peut-être quand tu vas faire la prière, l'obligatoire, ou là tu fais une nafila et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que à partir d'aujourd'hui, ça y est la cigarette. Tu te lèves le lendemain, il n'y a pas de cigarette. Un jour, deux jours, trois jours, cinq, une semaine, des maux de tête. Tu prends une serviette, je ne sais pas comment ça, un foulard, et tu t'attaches la tête, le front. Ça s'appelle le djihad fi sabilillah. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire le djihad. Tu avais quelque chose qui coulait dans tes veines, je la laisse pour la cause d'Allah. La cigarette, c'est pour moi la chose la meilleure au monde, mais je vais la laisser en la cause d'Allah. Si c'était que Allah Azza wa Jalla qui ne voulait pas, j'en aurais fumé 5 paquets par jour. Mais à cause de l'Azza wa Jal, je suis prêt à ne pas fumer et à ne pas boire l'alcool qui coule dans mes vins. L'Azza wa Jal dira, voilà le vrai croyant. Voilà la chose qu'il aime plus. Maintenant, il m'aime moi plus que cette chose. Ouladina amanu shiddu hubban lillah. L'Azza wa Jal dit dans le Coran, et les croyants aiment Allah plus qu'autre chose. Ouladina amanu shiddu hubban lillah. Il aime Allah plus que toutes les choses, toutes les autres. Il a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Ceux qui feront le djihad en moi. Qu'est-ce que ça veut dire en moi? لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Je vais les aider, leur ouvrir les portes. Qu'est-ce que ça veut dire en moi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué le Coran. Dans un hadith sahih, Rawa Ahmed al-Albani qal sanadu sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset, il a dit, ceux qui vont faire le djihad en moi, c'est-à-dire le djihad de l'âme, c'est pas le djihad du revolver et les fusées. Le djihad de l'âme, quelque chose que tu aimes et qui est haram, tu la laisses à cause de moi. Quelque chose que j'aime moi et que tu n'aimes pas toi, tu la fais à cause de moi. Ça s'appelle djihad al-nafs. Djihad al-nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih du Bukhari, dans le Bukhari, le deuxième livre le plus juste après le Coran. Il a dit, Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah. Le Mujahid, c'est celui qui a fait le djihad en son âme, pour son âme, pas pour l'ennemi l'autre, pour son âme, en la cause d'Allah. Il n'y a pas plus grand djihad que ne pas fumer pour celui qui fumait ne pas boire l'alcool pour celui qui buvait, en buvait, et ne pas se droguer pour celui qui se droguait. Ça, c'est le plus grand djihad du monde. C'est beaucoup plus difficile que l'autre djihad. Voilà, il y a quelqu'un maintenant qui dit, pour une information, juste pour une personne qui a acheté un paquet toutes les semaines, suppose une personne qui achète un paquet de cigarettes toutes les semaines, ça se fait pas. C'est un paquet tous les jours, mais ça ne fait rien. Nous, on suppose seulement un paquet une semaine. Et quelqu'un qui a fumé pendant 40 ans, seulement un paquet, hein, seulement, lui, il en fume deux par jour, nous disons deux par jour. Nous, on a dit une fois par semaine. Ça donne 288 000 euros. 288 000 euros. Barakallahu fik, l'ocht. Essaye de me faire, si tu as une calculatrice, pour quelqu'un qui fume deux paquets par jour pendant 40 ans. Quelqu'un qui fume deux paquets par jour pendant 40 ans, qu'est-ce que ça donne? Rends-moi, inchallah, la réponse. Je disais, voilà le vrai djihad. C'est pas la peine de dire, moi, il n'y a pas où je vais au djihad. Quoi, il y a le grand djihad. Il y a le grand djihad. Commence par t'éloigner de la cigarette, si tu peux, et de l'alcool, et de la drogue. Tu auras fait le grand djihad devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Oui, Tamallah, Akhi Abdelaziz, tu as dit tout à l'heure que tu pouvais dire cette chose-là. Prends le micro, Barakallahu fik. Prends le micro. Il faut que d'abord que je te vois. 29 200 paquets. À question de combien ça coûte le paquet, combien ça coûte, et tu fais la multiplication. Tu fais la multiplication. Akhi Abdelaziz, est-ce que tu es là, Barakallahu fik? Je te vois pas. Akhi Abdelaziz, où est-ce que tu es? Je ne vois pas, il a pas levé la main, je ne peux pas le voir. Maintenant, il est là. Qu'il lève la main pour que je le voie, je ne peux pas descendre et filer la liste, c'est difficile. En troisième position, Sah, Jazakallahu Khair. Prends le micro, Barakallahu Fik, je ne t'ai pas vu, prends le micro. Abdelaziz, t'as fait de prendre le micro et dis-moi les 5 que j'avais dit tout à l'heure. Et c'est une révision pour les autres, Inch'Allah Ta'ala. Fadal. Il n'y a pas de son, d'accord. Frère F.A. T'as fait de qu'est-ce que tu voulais dire? On n'est pas encore arrivé aux questions. Fadal, si tu as quelque chose à dire. Bam. C'est comme tu as dit. Non, se frotter, parce que tu ne m'as pas bien entendu. Quand quelqu'un fait la douche, allez, le lavage majeur ou là, les ulama ont dit, se frotte celui qui est velu. Il a beaucoup de poils. Il a beaucoup de poils. Il a peur que ça n'arrive pas, l'eau à l'intérieur. Mais quand j'ai parlé de la mer, j'ai dit que s'il plonge dans la mer, il sort, il faut quoi? C'est pas se frotter. Il faut qu'il mette dans la bouche et dans le nez l'eau. Il faut qu'il fasse rentrer l'eau dans la bouche et dans quoi? Et dans le nez. Voilà ce que j'ai dit. Wallahu ta'ala, a'lam. Maintenant, naam. Maintenant, on commence Allah Ta'ala le dars très vite comme ça. J'aurais voulu que yani hada usul fiqh, ce qu'on a fait aujourd'hui, que yani qu'on fasse un cours spécialement sur usul fiqh. Chauf, mes frères et mes sœurs, il faut Inch'Allah Ta'ala que vous leviez un peu du mustawa, du niveau, pour pas que vous restiez toujours à seulement yani entendre des rappels, etc. Ça, j'ai dit, il faut demander le ilm. Il faut étudier des choses comme usul fiqh par exemple. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, quand on va faire le hadith, on va parler, la première heure aussi, notion de ilm al-hadith, notion sur les mots techniques des hadith. Pour que quand tu lis un livre ou là tu entends un alim parler, il dit ce hadith, il est chèv, il est manqata', il est maqtou', il est ahad, il est mutawatir. Il est mu'adal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai lu un hadith écrit dans le livre ici, hadith mursal. Quoi hadith mursal? Je travaille avec lui ou là je travaille pas avec ce hadith mursal? Hadith mu'adal. Hadith muqloub. Munkar. Qu'est-ce que je fais dans ces hadiths? Ça, vous apprenez, ce sont des mots techniques, tu les apprends par cœur. Comme tu apprends les voitures. Tu dis celle-là, c'est une Peugeot 205. Celle-là, 206. Celle-là, coupé. Celle-là, le toit ouvrable. Celle-là, les options. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Pourquoi? pour que tu apprennes, quand tu lis un livre, là, tu écoutes quelqu'un, là, tu parles avec des gens, tu parles avec un mustawa, avec un niveau qui est bon, qui est bon. Tu ne restes pas seulement à écouter les rappels, qu'il faut faire la prière, qu'il faut faire la zakat, que y a, quand on va mourir, il y a dans la tombe, il y a le supplice. Tout ça, on en a besoin. Mais on apprend aussi. On apprend. Iqra. Fa'alam annahu la ilaha illallah. On ne s'arrête pas seulement au niveau des rappels. Il faut qu'il y ait aussi du ilm, talib ilm. Il faut que tu sentes que tu es en train de faire des efforts. Il n'y a pas un plus grand djihad aussi que demander le ilm. Demander le ilm, c'est l'un des plus grands djihad aussi. Tu es là assis, d'autres sont en train de danser, de je ne sais pas de quoi faire. Toi, tu es là, hein, peut-être difficile à comprendre. Tu essaies de comprendre, tu poses des questions, tu vois. Tout ça pourquoi? Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train d'apprendre quelque chose du Créateur Azza wa Jal, qui t'a créé et qui aimerait que tu le connaisses. Et tu ne le connaîtras pas si tu ne connais pas sa religion. Car avec ces choses-là que tu apprends, tu vas connaître sa religion. Et si tu connais sa religion, khlas, ça veut dire que tu es rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu es devenu un savant bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Maintenant j'ai dit Aliya, tafaddali Aliya. Tafaddali avant que je commence. Aliya, fais vite, barakallahu fik. Inch'Allah, naam. Non, les questions, pas maintenant, barakallahu fik. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a quelque chose à dire ou là. Les questions, inch'Allah, juste après le dars. Juste après le dars, sallallahu ta'ala, même si vous voulez, je vous répète tout ce que vous voulez. Akhi Abdelaziz, maintenant si tu veux reprendre le micro, si tu peux, prends-le. Si tu peux maintenant parler, inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va parler des grandes ablutions du Rusk. On en a parlé beaucoup. Ça, s'ils m'envoient un email, Inch'Allah. On en a parlé beaucoup. On a terminé les eaux, les toilettes. On a terminé les petites ablutions. Maintenant, on est dans les grandes ablutions. Je vais réviser seulement les grandes ablutions. Inch'Allah ta'ala, il reste quoi? Il reste maintenant, juste après, c'est Tayammum. Tayammum, c'est très important. Beaucoup de gens ne savent pas comment le faire, quand est-ce qu'on le fait, comment qu'il s'annule, etc. Ensuite, juste après, ce qui a un rapport avec les monstres des femmes, ensuite, juste après, les logis, ensuite, juste après, on commence la salat. La salat, c'est très important. Beaucoup de gens ne font pas la vraie prière et ils ne savent pas. Beaucoup de gens ne la font pas comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est lui qui a dit, sallou kama ra'aytumuni salli ou salli. Faites la prière comme vous m'avez vu en train de la faire. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, il faut avoir un peu de patience. Maintenant, bon, tfaddal Hamza, tfaddal. Hamza, tfaddal. Puis-je mettre un lien pour le salat? Je vous avais parlé. Tfaddal, tfaddal Hamza, mets-le. نعم tout à l'heure quand on a parlé نعم جزاك الله خير tout à l'heure quand on a parlé de Westbrook on a parlé de quelqu'un qui fume un paquet par jour qui fume qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure un paquet par semaine نعم pour une personne qui fume un paquet par semaine ça donne en 40 ans ce chiffre là je vois le lien Barclovic. Ça donne en 40 ans une unité simple 3 836 880 euros pour celui qui a fumé combien celui qui fume un paquet par semaine voilà combien ça donne un paquet par semaine tandis que celui qui fume deux paquets par jour celui qui fume deux paquets par jour voilà ce que ça donne pour celui qui s'est compté 53 290 000 euros 53 millions d'euros 290 000 pour celui qui fume deux paquets pendant 40 ans je crois que ce 53 millions c'est beaucoup d'argent car un paquet coûte 5 euros car un paquet coûte 5 euros, comme on vient de me le dire. en ce qui concerne le rusk, أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. En ce qui concerne le rusk, je fais une petite révision, elle est simple, et parce que on a assez parlé du rusk, on a assez. Quand quelqu'un veut faire le rusk, que ça soit de la janaba parce qu'il a eu un rapport avec sa femme, ou que ça soit des monstrues par exemple, ou des lochers. Maintenant, on veut faire le lavage majeur. Qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord les mains, on les lave. Ensuite, on se lave par devant et par derrière, les parties intimes. On commence par se laver les parties intimes par devant et par derrière pour ne plus y revenir dans ces deux endroits. Ensuite, après avoir lavé les deux parties intimes, on se lave les mains avec le savon ou là avec un shampoing ou avec n'importe quoi, car elles étaient dans les deux parties intimes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit Bismillah et on commence des petites ablutions. On dit Bismillah et on commence à faire des petites ablutions. C'est-à-dire, on commence par les mains. On commence par les mains, ensuite trois fois, il y en a jusqu'au poignet, la bouche et le nez. N'oubliez pas que la bouche et le nez, on les fait les deux à la fois. On prend une poignée d'eau, et on fait rentrer l'eau à la bouche, et en même temps on fait rentrer au nez. On met dans les deux à la fois, on aspire par le nez, ensuite on jette ce qu'il y a dans le nez, ensuite on jette ce qu'il y a dans la bouche. Ensuite on se lève le visage trois fois. On se lève les bras jusqu'au coude ou plus, au moins au coude. Mais si c'est plus, tu as un ajr plus, moitié du coude. Tu fais monter, ensuite tu fais les cheveux, tu vas et tu reviens. Si la femme a des cheveux longs, elle s'arrête. Quand c'est question de cheveux, quand elle va comme ça, marche arrière, elle s'arrête juste sous le cou. C'est pas la peine de descendre si elle a des cheveux, par exemple, qui descendent jusqu'au dos. Elle s'arrête juste là devant le cou, ensuite elle revient vers l'avant. Ensuite, c'est pas la peine de changer d'eau, mais si tu changes, ça se fait. Mais de préférence, si tu changes, tu changes seulement une fois ou deux. Pardon, salam alaikum. Naam, masmatullah. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais que quand tu reviens tes cheveux, tu vas directement à tes oreilles. Si tu changes d'eau, ça se fait. Mais la plupart, ce que faisait le prophète sur l'ensemble, c'est qu'il ne changeait pas d'eau. La même eau qu'il a prise pour faire les cheveux, quand il revient, il descend directement aux oreilles. Il fait rentrer les deux index. Il les fait rentrer dans les trous là des oreilles. Il essuie les trous. Ensuite, il essuie un peu plus haut, il y a deux autres trous. Ensuite, il essuie le tour des oreilles à l'intérieur des oreilles, il y a le tour comme ça, le tour. Ensuite, ça c'est avec les index. Ensuite, il fait sortir ses deux index, et avec les deux pouces, il s'essuie les deux oreilles par l'extérieur. Il touche ses oreilles avec les deux pouces comme ça, par l'extérieur, et il fait monter du bas, c'est-à-dire où on met les boucles d'oreilles, à l'extérieur, et commence à monter jusqu'en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête là, il reste les pieds, il ne les touche pas. Il s'arrête là. Ensuite, il commence à jeter de l'eau sur sa tête. Il ouvre la douche avec une forque, commence à faire descendre l'eau. De préférence, il fait le côté droit de sa tête, ses cheveux, de préférence. Ensuite, le côté gauche. Ensuite, il descend. L'eau est en train de couler du haut. Et moi, je suis en train de, avec ma main, avec... de faire marcher l'eau, une sorte de massage. Je n'oublie pas de mettre mes mains sous mes aisselles, car des fois l'eau ne va pas toucher sous mes aisselles. Ensuite, je fais descendre l'eau comme ça avec mes mains, à chaque fois, sur mes mains, sur mes cuisses, je fais descendre l'eau. Ensuite, je fais avec mes mains derrière les genoux. On plie les genoux, des fois l'eau ne rentre pas là-bas. Je fais comme ça avec mes mains. Ensuite, je fais mes deux mains comme ça derrière mon dos pour être sûr que j'ai touché partout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne un peu, je fais arrêter l'eau qui coulait d'en haut, et j'ouvre. Si j'ai un robinet en bas, j'ouvre le robinet d'en bas pour faire mes pieds. Je termine avec mes pieds, Je n'oublie pas de faire avec l'auriculaire le petit doigt. Je le fais rentrer entre mes orteils quand je suis en train de me laver les pieds. Ensuite, je sors et je vais faire la prière. Eh bien, je vais pas faire la prière. D'après, il y a un échec. Ça dépend. Donc, je disais, là, c'est pas la peine de refaire le wudu. Là, c'est pas la peine de refaire le wudu pour faire la salade. Car le petit wudu est rentré sous le grand. Mimbab. Donc ici le petit wudu, khlas, il est rentré sous le grand wudu. D'ailleurs tu as fait le petit, tu as commencé avec le petit et tu as terminé les pieds avec le petit. Mais il y a des choses que je voudrais dire ici pour que terminer le dors. C'est surtout ça rapport avec la femme. Quand ça a rapport avec la femme, ce n'est pas seulement la femme qui doit être intéressée, l'homme aussi. Pourquoi? Il y a des gens qui vont te demander demain, ils disent celui-là c'est un talbain. Quand je vais lui demander, est-ce que la femme quand elle a les menstrues, ceci, cela, ah tu vas leur dire, je sais pas, aller demander aux femmes. Donc tu n'es pas un talbain. Talbain, tu dois t'évertuer à ce que tu comprennes toutes les choses si c'est possible. Le maximum de choses. Deuxièmement, demain, tu es boué, Inch'Allah ta'ala, te marier. Ta femme, c'est pas sûr qu'elle soit un talibain. Donc elle va avoir des problèmes, c'est toi qui vas lui montrer. Si tu n'as pas étudié cela, comment tu vas savoir? Troisièmement, pourquoi c'est intéressant aussi pour l'homme? Parce que quand tu étudies les mentions ou des choses qui ont rapport avec la femme, tu as un ajr, car tu es dans une adoration. L'adoration, tu es en train de faire une adoration, c'est talb'l'ilm. Et talb'l'ilm, il n'y a pas des choses, si tu les entends, c'est bien, tu les entends pas, ça ne fait rien. Ça, talb'l'ilm. Donc, premièrement, awalan, la farq bayna ghusl al-mar'a wa ghusl al-rajul ghayra annahu. Il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme quand ils se lavent, sauf ce que je vais dire. Une femme et l'homme se lavent de la même façon à 100%. Ils commencent exactement comme j'ai dit et ils terminent par les pieds. Sauf ce que je vais dire. Awalan, laysa al-mar'a an tanqudha baqiyataha li ghusl al-janaba. La femme, quand elle va faire le lavage majeur, ou bien elle le fait à cause de la janaba, elle a eu des rapports avec son époux, ou bien elle a vu quelque chose dans les songes, ou bien elle va le faire à cause des menstrues, purification, ou bien à cause des logis, purification. Maintenant, quand elle va le faire à cause de la janaba, à cause des rapports avec son mari, elle n'est pas obligée d'ouvrir les nattes si elle a des nattes, si ses cheveux sont des nattes, sont nattées, ce n'est pas obligé qu'elle les ouvre quand elle fait le lavage de la janaba. Je dis bien la janaba, le lavage des rapports et non pas le lavage des menstrues ou bien des logis. Pourquoi? Hadith Umm Salama radiallahu ta'ala anha, qalat, elle a dit, qultu ya Rasulullah. Elle a dit au prophète Umm Salama, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au prophète, inni imra'atun ashuddu dafara ra'si. Je suis une femme qui tient mes cheveux en natte. Il y a beaucoup de femmes qui, presque toute leur vie, elles ont les nattes sur la tête. Si maintenant je vais faire le lavage majeur à cause de la janaba, à cause des rapports, est-ce que je dois ouvrir les nattes? Qala la. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, non. Non, ça te suffit, impureté sexuelle. Naam, ça te suffit de que tu fasses trois fois comme ça sur ta tête. Seulement, ensuite, tu jettes l'eau sur toi, ça te suffit. Donc, seulement trois fois comme ça sur ta tête, et tu fais passer les nattes dans tes mains. Tes mains qui sont mouillées parce que tu as jeté de l'eau sur ta tête, ensuite tes mains sont mouillées, tu fais les passer tes nattes dans tes mains. C'est difficile à dire. C'est comme par exemple quelqu'un qui va grimper une corde. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer la corde dans ses mains, hein, pour grimper. La même chose, elle prend les nattes et elle les fait rentrer dans sa main comme ça et elle ressort ses mains de l'autre côté. Ça veut dire elle fait passer ses nattes dans ses mains. C'est compris, Inch'Allah. Sa main, elle la ferme, ensuite la natte va rentrer entre le pouce et entre le pouce et l'index, et elle va faire sortir ses mains. Ensuite, il y a un autre hadith qui est sahih. Celui-là, bien sûr, c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih, comme j'ai dit. Ensuite, il y a un deuxième hadith. عن عمير بن عمير عن عبيد بن عمير قال يا ان كومبانيون كي ادي ولا تابعي كي ادي بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء اذا اختسن ان يقضن رؤوسهن. عائشة رضي الله تعالى عنها la femme du prophète صلى الله عليه وسلم qui connaissait sûrement comment qu'on se lave de l'impureté sexuelle et des monstres mieux que les hommes, parce qu'elle était avec le prophète alayhi salam, elle dormait avec lui, il la voyait quand elle se lavait. On lui a dit il y a quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, un grand sahabi, qui ordonnait aux femmes que quand elles se lavaient, elles devaient ouvrir les nattes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ya ajaban ibn Amr hada. Salam al-Khawar. Ya ajaban ibn Amr hada. Je suis étonné de ibn Amr hada. Je suis étonné de cette personne. لقد كنت عفوا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. C'est étonnant cet homme là, il est étonnant. Il ordonne aux femmes de dénouer les nattes, il leur ordonne. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. Pourquoi donc ne va-t-il pas leur ordonner aussi de se raser la tête? Nam, tu lui dis toi, ouvre les nattes. Il lui a aussi de se raser la tête. Ça veut dire que ça ne se fait pas. لقد كنت أغتسل. Je me lavais moi. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid. Je me lavais moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une seule bassine. Une seule. Moi je prenais un peu d'eau, il lui prenait un peu de l'eau. Dans un autre hadith, il faisait même un yagda, il plaisantait. Chacun disait à l'autre, laisse-moi, tu m'as tout pris. Ensuite, قالت ولا أزيد على الأفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. Et je n'ajoutais pas à ce que, qu'est-ce que je faisais? Je versais sur ma tête 3 versements. Je prends comme ça une casserole, je verse une fois, deux fois, trois fois, ça j'ai terminé l'autre. Et celui-là, il dit, non, tu dois ouvrir les nattes et tu dois laver les nattes. Elle a dit, yani, ça c'est impossible. Donc, premièrement. Deuxièmement, يجب عليها مقضو ظافيرتها في غسل الحيض. Si c'est maintenant le lavage des monstres ou bien des logis, elle est obligée, si elle a les nattes, de les ouvrir. Donc je répète, à Janaba, elle n'ouvre pas, et l'oshi, les monstrues, elle doit ouvrir les nattes si elle en a. Pourquoi? Hadith Aisha radiallahu ta'ala anha, elle a dit, Fa adrakani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu vers moi, yom arafa, j'étais à arafat al-hajj, wa ana ha'id, j'étais en monstrue. Il est venu vers moi, Fa shakawtu ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit ce qui s'est passé, voilà, j'ai eu. C'est-à-dire, je suis indisposé. Il a dit, Da'i Omratek, laisse ta Omra, Wanfoudi Ra'sek, et dis-nous tes nattes. Tu as des nattes, alors, tu les ouvres. Ouvre tes nattes, Wamtashiti, coiffe-toi, Wahili bi Hajj. Laisse la Omra, il dit, je commence maintenant le Hajj, le Bayk Allahumma Hajj. Laisse Omar. Donc voilà une preuve que quand c'est des monstrues, elle doit, avant de se laver, elle doit quoi? Elle doit ouvrir ses nattes. Troisièmement, voilà, j'ai dit il y a quatre choses qui différencient le lavage de la femme par rapport à l'homme. La première des choses, elle n'ouvre pas les nattes dans la janaba. La deuxième, elle ouvre dans les monstrues. Troisièmement, istihbab isti'mal al-muhtasila bin al-hayd. Il est conseillé à la femme, quand elle se lave des monstrues, de prendre par exemple un peu de coton, de le mettre dans un peu de parfum et de le mettre dans l'endroit où il y a eu du sang. Et c'est conseillé, c'est une sunna, si tu l'as fait, tu as un ajra, de mettre dans un coton un peu de parfum qui donne une bonne odeur et de le mettre dans la place où le sang est sorti. An Aisha radiallahu ta'ala anha, anna Asma, c'est sa sœur bien sûr, c'est sa sœur radiallahu ta'ala anha, afwan, ici dans le livre, il a dit c'est une autre Asma, c'est pas sa sœur, Asma bintou Shekel, parce que Aisha radiallahu ta'ala anha a une sœur qui s'appelle Asma, leur père c'est Abu Bakr, mais ce n'est pas la même mère, la mère de Asma, c'est une mouchrika, une mécréante, et la mère de Aisha c'est Ummu Roman. Elle s'appelle Ummu Roman, donc c'est sa sœur de mère seulement, sa sœur de père. elles ont le même père. Mais celle-là, Asma, c'est une autre. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est Atu Nabi sallallahu alayhi wa sallam an ghuslin mahid. J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le lavage des menstrues. Faqal, il a dit, ta'khudu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahar. Il a dit que chacune de vous prenne l'eau, prenne un peu d'eau, yani qui lui suffit, et sidra, maintenant, comme on n'emploie plus sidra, dit sidra, sont des feuilles, j'ai dit une fois, qu'on met aussi pour enlever la sorcellerie, etc. On m'a donné une fois le nom en français, ça s'appelle sidra, il y en a beaucoup dans les pays chauds, il y a en Algérie, etc. Pour, on prend cette feuille, on les met pour enlever la sorcellerie, comme c'est écrit dans Fath al-Bari. Cette cidra, ces feuilles vertes, si tu les mets dans l'eau, pourquoi? Ils vont donner une couleur verte à l'eau et ça purifie vite. Ensuite, il a dit, elle se purifie, ça tuhsan al-tahur, elle se purifie bien. Summa tasubu ala ra'siha, ensuite elle jette de l'eau sur sa tête, et sur ses cheveux. Ça tadlukuhu dalkan shadidan. Ça tadlukuhu dalkan shadidan. Donc la femme, ah, feuille du jujibi, barakallahu fik, feuille du jujibi, jazakallahu khairan. Regardez ici, il a dit, quand la femme se purifie des menstrues, elle lave ses cheveux, elle a dit, tadlukuhu dalkan shadidan, elle met les mains bien dans son droit, dans sa tête, ses doigts, pardon, elle commence à bien frotter sur sa tête pour être sûre que ça a bien touché toutes les parties. Regardez la différence entre quand elle fait la janaba, elle n'ouvre pas les nattes, elle jette seulement comme ça trois fois sur sa tête et elle fait le corps. Quand pour les monstrues, non, elle ouvre les nattes et encore, et après les avoir ouverts, elle met l'eau, elle jette de l'eau sur sa tête et elle commence à mettre comme ça avec ses doigts, elle fait des massages dans sa tête. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dalkan shadidan, ça s'appelle sidricol aussi. Naam, jazakallahu khairan. Donc shadidan hatta tablugha shu'una ra'siha, jusqu'à ce qu'elle touche le fond de sa tête, yani sa tête, c'est pas seulement les cheveux, elle touche la tête en bas. Thumma tasubbu 'alayha al-ma, ensuite elle se jette de l'eau sur elle, et ensuite voilà. Thumma ta'khudh firsatan mumassaka, ensuite elle prend un morceau de coton ou n'importe quelle chose. Maintenant, notre temps, la meilleure chose c'est les cotons. Le coton, elle prend un peu de coton parfumé, fatatatahar bih, et qu'elle se purifie avec. Faqalat Asma, la femme qui avait demandé la question, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, quand elle termine la douche, elle prend un coton, elle le parfume, elle met dans l'endroit là, elle a dit, comment je fais? Pardon, Israël, non, il n'a pas dit encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il lui a pas dit, c'était le titre seulement. Il a dit, elle lave bien ses cheveux, ensuite elle jette l'eau sur son corps, il lui a dit, quand tu termines, tu prends un peu de coton, tu lui mets un peu de parfum, misc, ensuite tu te purifies. Il a dit comme ça, tu te purifies. Elle n'a pas compris, elle a dit, kayfa tatahhar bihi, kayfa tatahhar, elle a dit. Bien sûr, on ne peut pas comprendre, je te dis, prends un morceau de savon, un fardeau de coton, tu mets un peu de parfum, je ne sais pas, tu me dis où je le mets, peut-être, je me masse le corps, ou là, qu'est-ce que je fais? Elle lui a dit, comment je fais? Faqala, subhanallah, tataharina biha, subhanallah. Le professeur Hassan n'aime pas parler beaucoup dans des choses comme ça, yani. Subhanallah, c'est pas une impasse, astaghfirullah. Le din, on parle et on doit le montrer. Il a honte, il est très pudique, il a honte. Donc quand il a dit ça, elle n'a pas compris. Faqalat Aisha radiyallahu ta'ala anhu, ka'anna tukhfi dhalik. Ensuite Aisha lui a dit à cette femme, en cachant, yani, sans que le prophète Hassan ne l'entende, elle a dit, tattabi'ina athar dam, tu suis, yani, d'où le sang a coulé. Celle-là, ça veut dire que tu le mets dans le membre d'où le sang a coulé, afin que cet endroit n'ait pas une mauvaise odeur. Afin que cet endroit n'ait pas une mauvaise odeur. Wa sa'alathu an ghusli janaba, ensuite elle lui a dit, comment on fait pour la janaba quand on se lave? Il a dit, elle prend un peu d'eau, fatatahhar, elle se purifie, fatuhsin tahur, elle se purifie bien. Thumma tasubu ala ra'siha, elle jette de l'eau sur sa tête, fatadluk, hatta tablugh shu'un ra'siha, thumma tafid 'alayha al-ma, thumma tafid 'alayha al-ma. Faqalat Aisha, qu'est-ce qu'elle a dit Aisha radiyallahu ta'ala anha? Elle a dit, Ni'man Nisa Nisa Ansar. Les meilleures femmes, ce sont les femmes des Ansar. Celle-là, c'est une femme des Ansar, celle-là, Esma, qui a posé la question. Elle a dit, Ni'man Nisa, Ni'ma Nisa Ansar. Pourquoi elle a dit ça à Aïcha? Pourquoi elles étaient, elle a dit, ce sont les meilleures femmes, ce sont les femmes des Ansar. Pourquoi? Parce que elles passaient la nuit avec la télévision, se traîneraient de voir des films jusqu'au matin. Sûrement, c'est pas pour ça. Pourquoi alors? Je vais vous dire pourquoi. Elle a dit, لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم. حديث خرجه مسلم. Elle a dit, la honte et la pudique ne les empêchaient pas d'apprendre le din. نعم. C'est ça, quelqu'un qui est sincère. Quand c'est quelque chose de din, quelque chose comment adorer Allah, quelque chose comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas honte. Je voudrais apprendre et je pose mes questions. Je reste pas comme ça. Il est très ignorant. Bien sûr, il y a des façons de demander. On n'emploie pas les mots vulgaires. On n'emploie pas les mots vulgaires. On emploie les mots comme ça, Yannick, que lorsqu'on les entend, ça peut passer. Il y a des mots, pour dire la même chose, tu peux employer un autre mot qui est très vulgaire. Le prophète Sassam ne faisait jamais cela. Donc Aïcha a été très contente. Voilà, elle a dit, les vraies femmes, elles n'ont pas honte de connaître la religion et demandent au prophète Sassam, Yannick, des choses comme ça, Yannick, spécialement pour les femmes, si elles n'ont pas honte. Maintenant, tu trouves quelqu'un, tu parles de monstrueux là, dans le din, en train d'apprendre des gens, il se dit par exemple, Allah, aïb, pourquoi tu parles cela? Ça se fait pas, aïb. Ah, c'est aïb, hein? Comment qu'on dit aïb en français? Comment qu'on dit aïb en français? Écrivez-moi le mot d'abord, comment qu'on dit aïb? Dit quelqu'un, il dit aïb, je crois que c'est mal élevé ou là, impoli. Non, impoli, hein? Honteux. C'est aïb, c'est impoli. Ça se fait pas. Ah, si ça se fait pas, maintenant, c'est honte, hein? C'est honteux, c'est impoli quand je parle de, j'apprends aux gens le din. Mais toi, qui dis c'est impoli, c'est pas impoli quand tu restes, toi et tes enfants, et vous voyez le film, hein, et l'homme en train d'embrasser la femme, c'est pas impoli ça. Tu vois ça devant tes enfants, et devant ta femme, et tu n'as pas honte. Et tu vas avec ta femme voir des choses beaucoup plus graves. Tu n'as pas honte. Ni tu n'es jaloux, ni tu as honte d'Allah Azza wa Jalla qui te voit, ni tu es jaloux devant ta femme qui voit les choses de l'homme. Ada, tu n'as pas honte. Ada, ça ne fait rien, Ada. C'est pas impoli, Ada. Mais si on parle dans le de la religion, on apprend aux gens, ah, toi, pourquoi tu dis ça? C'est impoli. C'est impoli, hein. Où il faut parler, ne pas être là, ça c'est impoli. Et où il faut et aller se lever, ne pas rester voir, là ça ne fait rien, on voit et c'est poli. Non. Quatrièmement, la dernière des choses, et j'arrête, la dernière des choses, la yajib ala al-mar'a idha ihtasalat min janaba aw hayd ghasla dakhil al-farj fi asah al-qawlayn wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Il a dit quatrièmement, la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme, quand elle se lave de le lavage hadak de la janaba, lavage de la janaba, ou bien le lavage des monstrues, il a dit, ce n'est pas obligé qu'elle se lave à l'intérieur de son membre. J'ai dit, à l'intérieur de son membre, elle met du coton avec du parfum. Mais quand elle est en train de se laver, elle n'est pas obligée de rentrer sa main à l'intérieur, car il y a des ulama, et certains ont dit elle doit, certains ont dit elle doit pas. Ici, celui qui a écrit le livre, il dit le plus juste, c'est que ce n'est pas obligé qu'elle le fasse. Ensuite, il a dit قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وإن فعلت فهو جائز. Ce n'est pas obligé, c'est le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah qui dit ça. Il lui a posé la question, la femme elle se lave, elle doit rentrer ses mains ou la sa main ou la son doigt. Il a dit ce n'est pas obligé. وإن فعلت جائز. Mais si elle fait, c'est pas interdit. Faut bien que vous compreniez, ce n'est pas, cher, j'ai pas très bien compris, pouvez-vous être plus clair? Je répète, quand la femme se lave à cause de la janaba ou bien à cause des monstres, elle est en train de se laver, elle n'est pas obligée de rentrer sa main à l'intérieur pour laver à l'intérieur. Elle n'est pas obligée. L'essentiel c'est par extérieur, ce n'est pas par ce qu'il y a à l'intérieur. je ne sais pas comment ça veut dire, c'est pas possible. On a demandé à Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, on lui a demandé, est-ce que c'est obligé? Il m'a dit non, ce n'est pas obligé, c'est permis. Yani, quand on dit c'est obligé, on va revenir au dars de tout à l'heure. Ça veut dire que celui qui ne fait pas, il va avoir un ithm et il va rentrer en enfer. Nous on dit non, ça ce n'est pas obligé. Si elle le fait, c'est permis, elle peut le faire. Ensuite il a dit, celui qui a écrit le livre, Aouaïcha a dit, Naam, il a dit, j'ai demandé à Cheikh Al-Albani, j'ai demandé à Cheikh Al-Albani, qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Taymiyyah a dit, c'est permis, elle fait ou elle ne fait pas. Cheikh Al-Albani a répondu, Naam, c'est permis, ta nafdoufen la tadayyounen. C'est permis, ta nafdoufen la ta'aboudan. Regardez les grands ulama, comment ils comprennent ce que disent les ulama. Cheikh Al-Albani a dit, quand Ibn Taymiyyah a dit c'est permis seulement, c'est pas obligé qu'elle rentre sa main, ça veut dire c'est permis dans le sens de yani pour tanadhufan, pour comment on dit un nadhif ou nafsi, tanadhufan, comment on dit, je me lave yani, ça, quand quelqu'un est sale, quand quelqu'un, voilà, nettoyer, jazakallah, c'est permis pour nettoyement ou le nettoyage, c'est permis pour se nettoyer et ce n'est pas une adoration, c'est pas parce qu'Allah a dit de faire cela. Donc moi, quand la femme veut mettre sa main, c'est pas parce que c'est une ibada, c'est une adoration, mais c'est juste pour se nettoyer. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ وَإِنْ أَخْطَعْتُ فَبِنْ نَفْسِي. Vous préparez vos questions, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, Inch'Allah, trois fois, je ne répondrai à aucune question qui est hors du DAS. Pourquoi? Parce que je laisserai ça à, je vais faire un cours spécialement pour les questions-réponses, sans faire de DAS. Aujourd'hui seulement, je réponds, Inch'Allah, à ceux qui ont quelque chose avec le DAS, soit ce DAS, soit celui tout à l'heure. C'est quoi le haram, l'illicite, l'obligé, etc. Voilà ce que je vais répondre, c'est tout. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre inchallah ta'ala dans 5 à 10 minutes. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt barakallahu fikoum. Fi sawt. طيب نتفضل جزاك الله خيرا نكمونس باغ ابو وام لينا افون توزي لا كيسيون شوف لي شيخ خرزي سو انتما يا دو اون او دو كي مون بوزي لا كيسيون لا ميم كيسيون يعني كو سي با بوسيبل كومون سفيتيل كومون بوتيل سو لافي لا فام ا لانتيريور سو كو جو فيان دو دير كو لي علماء اون دي كو سيتي با لا بين سو لافي ا لانتيريور. Il y en a qui ont dit que c'était pas possible. Moi, je voulais dire, quand elle se lave à l'intérieur, yani, par exemple, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de sang. Abou Anis a dit qu'il n'y a pas de sang. Non. Abou Anis, jazakallahu khayran. Je te donne, inshallah ta'ala, pas à toi, à tout le monde, je donne une nasiha, barakallahu fikoum. Quand quelqu'un sent qu'il n'a pas de sang, il croit qu'il n'a pas de sang, il demande à ceux qui n'ont pas de point rouge, il leur demande est-ce qu'il y a du sang. Parce que quand il écrit comme ça, moi je m'arrête et je commence à poser les questions. De préférence, Inch'Allah Ta'ala, tu demandes à ceux qui n'ont pas de point rouge et ils te répondent. Regarde ici, tous ils ont dit qu'ils ont du sang. D'ailleurs, j'ai oublié sur. Peut-être qu'on parlait, en train de parler dans le but, s'il ne m'entend pas. Je voulais dire que, Naam, ce que voulaient dire les ulama par là, ça se coupe. Si ça se coupe, je sors et je reviens. Si ça se coupe, je sors et je reviens. D'accord. Alhamdulillah. Donc, yani, ce n'est pas la peine quand la femme est en train de se laver. Après s'être lavée auparavant, elle s'est lavée par devant, par arrière, elle a commencé à tout faire. Ensuite, maintenant, elle arrive à cet endroit. C'est pas la peine, par exemple, de rentrer son doigt. à la fin, se rentrer son doigt pour se nettoyer à l'intérieur. Voilà ce que veut dire les ulamas. C'est pas en lave, seulement, par exemple, c'est pas la peine de faire rentrer sa, par exemple, son doigt pour se laver à l'intérieur. Voilà. Voilà ce qu'ils veulent dire par cette chose-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fiki barakallah. Maintenant, tfadal, akhi Abu Moulina. Tfadal, je t'ai enlevé le point rouge. Tfadal. Ya Rabbi, sahil, ya Rabbi, a'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doit-on se laver sous les ongles? Est-ce wajib pour l'état de Janaba? Non, ce n'est pas obligé. Ça rentre même dans la bid'a. Ça rentre dans la bid'a. Tu ne cherches pas sous les ongles si l'eau est rentrée ou elle n'est pas rentrée sous les ongles. Il doit rentrer. Car quand tu prends de l'eau avec tes mains, ensuite tu fais le wudu, ensuite tu grattes tes cheveux, etc., l'eau a touché toutes les parties qu'il y a sous les ongles, incha'Allah ta'ala. En principe, vous devez savoir qu'en islam, on ne doit pas laisser homme ou femme. On ne laisse pas les ongles plus de 40 jours. On ne laisse pas les ongles plus de 40 jours, surtout pour ceux qui les laissent à cause d'eux pour ressembler aux kafirettes. Surtout les femmes, si elles laissent les ongles à cause d'eux, par exemple, c'est la mode. Toutes les femmes, les actrices, toutes, elles ont les ongles. Donc moi, j'ai honte sans les ongles. Celle-là, elle va faire deux péchés. Les avoir laissés plus de 40 jours et de s'être fait ressembler aux kafirettes. Et le deuxième, s'être fait ressembler aux kafirettes, c'est beaucoup plus grave, bien sûr, que de laisser les ongles. Hajar, tafaddali. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Tafaddali, quelle est la première question? Connaissez-vous cette règle? Dans la dunya, tout est moubah, sauf si un délit l'interdit. Et dans le din, tout est haram, sauf si un délit autorise. Si vous pouvez me rappeler qu'il a dit, l'expliquer rapidement, par exemple, dans les deux cas. Naam, c'est en arabe, on dit, al-asl, fil ibadat, al-tahrim, hatta yatiya dalil. Al-asl fil ibadat, al-tahrim, hatta yatiya dalil. L'asfi l'ibadat, j'ai dit tahrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les adorations, la règle dans les adorations, c'est que tout est interdit sauf si on a un délit. L'asfi l'ibadat, le mena. Parce que si quelqu'un, par exemple, va faire une prière spéciale ou là, quelque chose, ou là, on va lui dire: tu vois, pourquoi tu fais ça? Il ne peut pas dire. C'est permis, on lui dit non, ça c'est une adoration ce que tu fais, c'est la salat, c'est la zakat, c'est le siyam, tu dois donner un dalil, parce que la na'bud illa Allah wa la na'buduhu illa bima shara. Nous, on n'adore que Allah et on l'adore que avec quoi? Avec sa sharia, avec ses lois lui, avec son Coran, avec sa sunna du prophète. Où est le dalil que ce que tu fais, ça vient du Coran, ça vient du sunna? Donc l'asr fil ibadat, l'ibadat tahrim ou l'mana, ou l'asr fil ashiya l'ibaha. Et dans toutes les autres choses, par exemple ce que tu veux manger ou là, tout ça c'est quoi? C'est permis, sauf avec un dalil, sauf parce que Allah a créé le monde spécialement pour nous, spécialement natana'am fihi wa na'kul min rizqih huwa alladhi khalaqa lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu. Il a dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, spécialement elle est pour vous, pour que tu manges tout est possible de manger. Sauf si, dans un cas où il y a un hadith ou un verset qui dit, attention, il ne faut pas manger par exemple cette chose-là, il ne faut pas boire cette chose-là. Donc c'est le contraire. Dans les adorations, tout est haram, tout est illicite, sauf pour celui qui a un verset ou un hadith. Et dans la vie réelle, les autres choses, yani l'ashiya, toutes les autres choses, tout est permis, sauf celui qui a un hadith et un ayah qui dit ça c'est haram. Wallahu subhanahu wa azzawajal, a'lam wa ahkam. Muslim kola tafadda. Pardon, et la deuxième question. Est-ce qu'une chose permise, faite avec exagération, goulou, le devenir haram. Ils ont trop mangé, non pas pour la cause d'Allah, ils m'ont dit de cause d'argent dans les vêtements. Non, toute chose qui dépasse, yani, ça peut rentrer dans le haram et ça peut rentrer dans le makruh quand elle dépasse la limite. Ça dépend ce que c'est. Par exemple, si quelqu'un mange, ensuite il exagère dans le manger, il mange trop, celui-là, Moubalagha, l'exagération, celui-là, par exemple, dans le manger, il peut rentrer dans le haram. Pourquoi? Parce qu'il peut manger beaucoup jusqu'à tomber malade, peut-être ça lui arrive quelque chose, une colique, et il meurt. Celui-là, il est rentré dans le haram. C'est pourquoi il y a un hadith sahih d'un compagnon, j'ai oublié qui c'est, le hadith, l'Albani l'a authentifié, où un compagnon a dit à son fils, lui a raconté, lui a dit hier, voilà, j'ai mangé ceci, c'est, j'ai mangé beaucoup. Il lui a dit, si tu étais mort hier, l'omitta bechamen, je ne serais pas venu à ta wasma janaza. Je ne serais pas venu, yani, à ta, yani, pour la salat, la prière de la janaza, etc. Je t'aurais pas enterré. Ce serait pas moi qui t'aurais enterré. Je ne serais pas venu à ton enterrement. Si tu étais mort hier, pourquoi? Parce qu'il avait trop mangé. La même chose. On commence à dépenser. Ensuite, on sort de la limite, on devient le frère de qui? Du shaitan. Innan mubaddirina kanu ikhwan shayatin. Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui dépensent comme ça, yani, en plus, là, sans que ça soit la chose à dire nécessaire, ça, ils deviennent les frères de qui? Les frères des diables, les frères des shayatin. Wallahu ta'ala alam. Muslim qu'on l'a tafaddal barakallahu fik. وعليكم السلام ورحمة الله الجميع وأنت أيضا مسلم كولا وأنت أيضا عبد الله 15 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Concernant le fait de ne pas raconter son cauchemar à son frère, اسم المسلم نعم. Concernant le fait de ne pas raconter son cauchemar à son frère, Hisn al-Muslim. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire ici, Hisn al-Muslim. Oh, ça veut dire que tu l'as lu peut-être dans Hisn al-Muslim. Ça, peut-être que tu l'as lu dans ce livre. Est-ce une sunna obligatoire ou juste des conseils? Non, non, jazakallahu khayran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fallait pas raconter cela, il fallait pas raconter cela à n'importe qui. Attendez, il y a quelqu'un qui voit ici. Pardon, il m'a écrit quelque chose. Naam, hadith Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, lam yadhkur annahu kana yaf'aluhu da'iman. Nous nous taklam an man hadhihi hiya 'adatuhu. Hadha fa'alahu marra shabi'a hatta lam yajid lahu masaran kama fi al-Bukhari. Naam, lakin lam yaf'aluhu da'iman. Hadhihi fursa yani atatuhu. فنعم في كبار الله فرصة يعني أتته لم يفوتها على نفسه. نعم je disais que نعم le prophète صلى الله عليه وسلم quand il dit quelque chose la règle c'est que s'il dit ne faites pas quelque chose c'est que c'est haram. C'est ça la règle qui est au fiqh, dans les bases du fiqh. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quelque chose, ne la faites pas, la règle c'est que c'est haram. Sauf si on a ce qu'on appelle qarina, on a quelque chose qui montre que ce n'est pas haram. Si on a quelque chose qui montre que ce n'est pas haram, on dit que ce n'est pas haram. Donc ici on a un nahi. Ici le prophète Aslam a dit qu'il ne faut pas faire. Donc le as, la règle c'est qu'on dise que c'est haram si tu dis à quelqu'un. Sauf s'il y a une qarina, sauf s'il y a quelque chose qui montre que ce n'est pas haram, yani tasrif nahi min tahrim ila mada ila karaha. Et ici, comme Qarina, ici la chose qui montre que ce n'est pas haram, c'est que Sheikh Ibn Uthaymeen, ala rahmatullah, a dit, in al-qara'in al-sarifa min al-tahrim ila al-karaha, idha kana al-nahyu fi al-ashya allati laysa laha dakhl fi al-ibada. Sheikh Ibn Uthaymeen, ala rahmatullah, a dit dans une règle que s'il y a quelque chose d'interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette chose n'est pas adoration pure, ibada mahda,
Ça veut dire qu'il te dit par exemple, il ne fait pas ceci, il y a une question de dormir, il ne fait pas ceci, question de t'asseoir, il ne fait pas. Là, il dit ça devient makruh. Comme dans ce cas ici, pourquoi il t'a dit de ne pas raconter? Car il faut que tu aies confiance en Allah Azza wa Jal et que tu aies confiance en ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il t'a dit que elle ne va pas te faire de mal, ce cauchemar ne va pas faire de mal, il faut que tu aies confiance. Classe. Le fait que tu commences à raconter, tu vas ouvrir une porte au shaitan. Il va dire, voilà, il n'a pas cru au hadith celui-là. Donc il a peur que ça se fasse quelque chose. Khalid, aujourd'hui aussi, je vais lui venir ensemble, je vais lui faire des machakil et des problèmes. Donc toi ici, tu combats le shaitan. Tu as envie de raconter, tu ne racontes pas. Tu craches trois fois, tu gardes le shaitan trois fois et tu laisses ça, tu l'as effacé. Le songe est effacé. Comme il y a un compagnon Jalil qui disait, Wallah, avant de connaître ce hadith, qui disait qu'il ne fallait pas raconter, ça va s'effacer. Si tu craches trois fois à gauche et tu fais les doigts, il a dit, je vivais l'enfer, je vivais le calvaire. Et c'est après j'ai connu ce hadith, alhamdoulilah. Maintenant, il disait, je restais des mois malade, j'avais peur si ce songe allait s'exaucer. Il a dit, maintenant que je connais le hadith, dès que je vois, même si je vois des gens en train de me couper, moi je dis à sa place, hein, ça veut dire, même si je vois des gens en train de me yani, couper avec des couteaux, il me coupe comme ça, il m'ouvre le ventre, je me lève, je fais trois fois les crachats, je garde l'instagine trois fois et je ne raconte à personne et je suis Inch'Allah, non seulement sûr mais archi sûr que rien ne m'arrivera. Et même moi d'ailleurs qui vous raconte ça, j'ai vu des centaines de fois des choses qui font très très peur, alhamdoulilah, elles ne sont jamais arrivées. Wallahu ta'ala alam. Mohamed 054, tafadhal. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. Est-ce que celui qui fait un acte détestable a un péché ou une diminution de la valeur de son acte d'adoration ou rien du tout? Akhi Mohamed 054, ça veut dire que tu n'étais pas peut-être avec nous. Tu n'étais pas peut-être avec nous quand j'ai expliqué et j'avais cru que tout le monde avait compris. Lakin, Inch'Allah ta'ala, je répète. Quand quelqu'un fait, chauffe, je te dis pas, c'est toi qui après tu vas juger. Je t'apprends la règle seulement. Ça, ce sont des règles. Quand tu apprends les règles, tu as les clés dans la main. Ensuite, c'est toi qui ouvres les portes. C'est quand tu vas apporter un couffin ou un sachet plein de poissons à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as nourri un jour. Mais quand tu prends cette personne avec toi à la chasse et tu lui apprends comment chasser, ensuite, tu la nourris tous les jours. Et quand c'est toi qui lui donnes un poisson, tu l'as nourri un jour. Moi, je te donne les clés, Inch'Allah, tu juges. J'ai dit que le détestable, quand quelqu'un le fait, même s'il le fait exprès, il n'a rien. Il n'a pas de ithm. Et ça n'enlève rien, ça ne diminue rien de son acte ni de rien. Quand il le fait, ça ne diminue rien. Mais par contre, s'il ne le fait pas avec l'intention de ne pas le faire à cause de Allah Azza wa Jal, il a des hasanats. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que tu as compris. D'accord, Jazakallah khair. C'est une règle générale, applique-la. Si tu fais quelque chose de détestable, Alhamdoulilah, tu n'as rien. Mais si tu ne la fais pas, tu as ajr. Conseillez-nous des livres de base dans Usul Fiqh, Barakallahu Fikum. Naam, il y a un livre très simple qui s'appelle Usul Fiqh Al-Wadih. Il s'appelle aussi, il a deux titres, Usul Fiqh Al-Wadih. Il s'appelle Usul Fiqh lil Mubtadi'in, Usul Fiqh pour les débutants. Hadi kitab nasit ana li man Usul Fiqh al Wadih ta Sulayman al Ashqar, Mohamed Sulayman al Ashqar, Usul Fiqh al Wadih. Il s'appelle aussi Usul Fiqh lil Mubtadi'in. C'est pour les débutants. Inch'Allah ta'ala, si on a du temps, Allah, peut-être on va faire un dars une fois par semaine ouais, pour Usul Fiqh, car même quand tu liras ce livre, tu vas trouver un peu de difficulté. Mais je demanderai à Allah Azza wa Jal qu'il t'ouvre ton cœur pour que tu comprennes mieux, inshallah ta'ala. Oum Sakina, tafaddali. مسكين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته بارك الله فيك pour ce cours. Je m'excuse pas avance mais j'ai trois questions inshallah. Non. Maintenant, elles font comme les femmes des Ansar qui posent des questions. D'accord, alors profite. Je vous dis juste une précision au sujet du lavage des cheveux de la femme qui est en état de janaba. Doit-elle s'assurer que l'eau a bien pénétré partout dans la chevelure sans défaire ses nattes jusqu'au crâne en frictionnant ou doit-elle uniquement jeter deux trois fois sa tête et non. Pour la première question, il y a deux ou trois hadiths qui disent les deux choses. Dans certains hadiths, s'il dit elle jette trois fois sur la tête et ça suffit, comme l'a dit Aïcha, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un autre hadith où il a dit elle frotte un peu le crâne, elle frotte un peu. Non, loi bahfi au sol fiqh. Est-ce que j'ai dit autre chose moi? Est-ce que j'ai dit autre chose? J'ai dit loi bahfi au sol fiqh ou au sol fiqh lil mubtadi'in. C'est nefs le kitab. Non, loi bahfi au sol fiqh. Je disais que pour. Donc, si elle jette trois fois, ça suffit d'après hadith Aïcha radiallahu ta'ala. Mais si elle essaye de frictionner, c'est mieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith il a dit elle frictionne. Ça inshallah ta'ala c'est mieux. Au sujet du coton que l'on doit mettre à l'intérieur, peut-on utiliser du parfum à base d'alcool ou bien le musulman? Même le parfum à base d'alcool, inshallah ta'ala, ce n'est pas interdit. Inshallah ta'ala, ce n'est pas interdit. Une seule demande, la salat 8 compte une ou trois rak'at. La salat 8, elle commence à une rak'at et se termine à 13. De 1 à 13 rak'at. De 1 à 13 raka, et ça va venir inshallah ta'ala dans quoi? Dans le chapitre la salat inshallah ta'ala avec plus de détails. Wallahu ta'ala alam. Allah yajazik khair, amin ya rabbal alamin. Abu Abdurrahman tafaddal. Salam alaykoum, alaykoum salam. Je vous avais connu concernant les banques islamiques. C'était juste de faire les emprunts, soi-disant sur le crédit, comme ils le disent, et que vous êtes renseigné, barakallahu fikoum. Naam, je devais me renseigner, car je devais voyager, inshallah ta'ala. Normalement, je serais venu hier ou aujourd'hui, mais je n'ai pas encore voyagé, inshallah ta'ala. Je voyagerai, inshallah ta'ala, cette semaine. Donc, jazakallahu khairan, pardonnez. لأن الجواب كان نعم لأن الجواب كان معلقا بالسفر بارك الله فيك. نعم عبد الله مو j'ai eu le livre, je l'ai acheté, ça fait peut-être 20 ans, peut-être qu'il a changé le titre, c'était écrit au sol fiqh lil mubtadi'in. Ensuite je l'ai vu dernièrement au sol fiqh al-wadih, peut-être qu'il a changé de titre, peut-être. نعم Hilal 1406, t'as pas parlé. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vos cours sont retranscrits par écrit ou enregistrés pour que les absents puissent rattraper ces cours, inshallah? Est-ce que le fait de remplir la baignoire pour faire son bain est considéré comme du gaspillage ou est-ce permis vu que c'est bon pour la santé? En ce qui concerne les cours, moi je n'enregistre pas et il n'y a rien d'écrit. Celui qui veut faire ça en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le fasse. Ensuite, il le donne aux élèves qui avaient l'habitude de suivre des cours, etc., pour se rattraper et réviser. Celui qui veut le faire, moi je lui permets, à condition qu'il ne le vende pas. Il ne fait pas de la tijara. Il le donne en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque le fera, inshallah ta'ala, il aura un ajr, inshallah ta'ala. Le fait de remplir la baignoire pour faire son bain, ce n'est pas, inshallah, interdit. Ce n'est pas, inshallah, interdit, car premièrement, c'est bon pour la santé, et deuxièmement, quand quelqu'un est sale, quand il reste à l'intérieur comme ça de l'eau chaude, ça permet d'enlever la saleté beaucoup plus. Et c'est bon aussi pour les os, pourvu que, yani, on gaspille pas, on ne fasse pas ça, yani, matin et soir. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ukhti Hasna, tafaddali. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Pouvez-vous me répéter l'obligation personnelle, l'obligation de groupe? Naam, barak. Jazakillahu khayran, Ukhti Hasna, jazakillahu khayran. Abu Talib, alaykoum salam, wa barakatuh. Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ukhti Hasna, je t'explique en arabe ou en français. Écris-moi F pour le français, A pour l'arabe. Il y a des gens qui aiment que ça soit en arabe, il y a des gens qui aiment que ça soit en français. Écris-moi F pour le français, A pour l'arabe. Je ne sais pas si l'Ocht est avec nous ou bien elle a déconnecté. Ukhti Hasna, si tu m'as entendu, si j'explique en français, tu écris F. Si en arabe, tu écris A. Donc peut-être qu'elle a déconnecté. On attend, inshallah ta'ala, qu'elle revienne. Abu Mouad, tafaddal. Abu Mouad, tafaddal. Elle a dit en français. Ah, elle a dit en français. Naam. F, d'accord. Elle a marqué F, pourtant je ne l'avais pas vu. C'est maintenant seulement que c'est arrivé dans mon affiche. Non, c'était pas dans mon affiche. C'est arrivé seulement maintenant chez moi. Naam, c'est arrivé seulement maintenant chez moi. Chauffez, porte. Tu disais, attends, je vais voir la question. C'était quoi d'abord? D'Allah ma chafa'ad. Naam. C'était quoi la question, indique l'obligation personnelle et l'obligation de groupe. Non. L'obligation personnelle, c'est toute obligation que chaque personne doit faire. Est-ce que la prière, quelqu'un peut la faire et d'autres ne la font pas? Non. Tous on doit faire la prière. Tous on doit jeûner. Tous on doit faire la zakat si on a de l'argent. Tous on doit quoi? Tous on doit aller au hajj si on a de l'argent et si on peut. Tous on doit faire, yani, beaucoup d'obligations. Hein. Tous on doit se marier si on peut. Tous, yani, c'est comme ça. Ça s'appelle obligation personnelle. Ça concerne chaque personne. Tous on doit obéir à Allah et à son prophète. Tous on doit obéir à nos parents. Ça s'appelle personnel. Maintenant, l'obligation du groupe, c'est que c'est une obligation si quelques-uns vont la faire à notre place, ça nous suffit. C'est une obligation qui n'est pas demandée à tout le monde. C'est demandé seulement à un groupe. Ça s'appelle kifaya. Si ce groupe, un groupe, deux, trois la font, ça suffit. Ça suffit, ça s'appelle kifaya. C'est suffisant. Quand quelqu'un meurt, est-ce que tout le monde, les musulmans, tous les musulmans doivent le laver? Non. Ils le lavent en groupe. 3, 1, 5, ils le lavent. Pour l'enterrer, un petit groupe, 50, 60, ils vont au cimetière, ils l'enterrent. Ça s'appelle quoi? Une obligation de groupe. Ça veut dire, pourquoi c'est une obligation? Parce que s'il ne l'enterre pas, et s'il ne le lave pas, tous on va avoir des péchés. Tous. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait une obligation de groupe. Mais si une petite jama'a, si 4 ou 5 ou 6 vont faire cette chose, cette obligation, tous les autres, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont échapper au ithm. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça à leur place. Et puisque les gens qui ont fait ça à leur place, ceux qui ont fait la chose elles-mêmes, ces 4 ou 5, vont avoir des ajr, des hasanet, et les autres, nous qui n'avons pas fait avec eux, on ne va pas avoir de siyyat. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de groupe. Donc les obligations se divisent en deux. Obligation de personne, que chaque personne doit faire, et l'obligation de groupe, que yani, si quelques-uns font, ça suffit, inshallah ta'ala, pour les autres. Wallahu ta'ala alam. Si tu as compris, dis-moi. Si tu n'as pas compris, je répète avant de poser une autre question. Inshallah ta'ala, tu l'as compris. Naam. Jazakallahu khairan. Fik, barakallahu fik. Abu Mouad, tafaddal. Abu Talib, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Tafaddal, Abu Mouad. Abu Mouad, est-ce que tu es là? Barakallahu fik. Abu Ouad n'est plus là, je ne sais pas pourquoi il est descendu en bas, j'ai pas compris. Youssef, tafadal, Youssef le Médinois, tafadal, barakallahu fik. Est-ce que tu as écrit quelque chose, Abu Ouad? Rien n'est sorti sur l'affiche, hein. Sur mon écran, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un voit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Moi, je ne vois pas sur mon écran ce que Abu Mouad a écrit. Non. Nam. Nam, Youssef, tafadal. Nam, il a dû écrire une longue phrase. Il doit couper les phrases. Youssef, akhi karim, Youssef. N'écris pas quelque chose de long, ça passe pas. Écris une phrase ou les deux et tu l'envoies. Ensuite deux phrases tu envoies. Et ainsi de suite. Naam, tafadal, on t'attend inshallah ta'ala. Faut-il d'abord laver les parties d'animes, ensuite dire bismillah pour le wudu. Naam, sah. Bon, moi, c'est comme tu as dit. Tu laves les parties intimes. Ensuite. Tu te laves avec le savon, les mains, ensuite tu dis bismillah et tu commences le wudu. Tu dis bismillah et tu commences le wudu. Youssef, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tafadal. Ça, c'est pas la peine de continuer. Fais-t-elle deux rousses ou bien un seul, ça? Fais-t-elle deux fois deux rousses ou bien un seul? C'est ça la question, ça? Non, la plupart disent elle fait deux. La plupart des ulama dont j'ai lu leur livre, ils disent de préférence, ils font deux, de préférence. La plupart des ulama disent de préférence, ils font deux. Et il y a un hadith mawquf. Demain, Inch'Allah ta'ala, vous saurez qu'il s'agit le mawquf. Il a dit, c'est un compagnon qui a dit que il a demandé à son fils. Il a demandé à son fils qui avait fait le rousl, yani, en même temps djellaba et en même temps djumwa. Il lui a dit, tu as fait le rousl, pourquoi? Il a dit les deux. Il a dit, non, va faire un deuxième rousl pour la djumwa. Va faire un deuxième rousl pour la djumwa. Mais bien sûr, il y a des ulama qui disent, on fait le deux, on fait un seul. Maintenant, moi, je voudrais vous dire une chose. Naam, il y a beaucoup qui ont dit ça, naam. Naam, moi, j'ai bien cherché cette mes'ala. Parce que peut-être que tu sais que ma thèse, yani quand j'ai fait le magistère, c'était spécialement sur le Jumu'ah. Spécialement sur Rousl Jumu'ah, Salat Jumu'ah, tout ce qui a rapport avec Jumu'ah. Donc j'ai bien cherché à ce niveau, Inch'Allah ta'ala. Je voudrais te dire que maintenant c'est très facile. Maintenant il y a la douche, il y a l'eau qui coule, tu ouvres pas en haut. Juste tu termines, tu dis Bismillah et tu laisses l'eau tomber une deuxième fois et tu sors. Yani le deuxième Rousl maintenant, tu peux le faire peut-être, en moins d'une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu comptes à 30, tu as terminé. Parce que tu as fait le premier, le deuxième c'est juste tu fais tomber un peu d'eau sur toi, et tu masses un peu et tu sors. Allahu ta'ala alam. Je voudrais maintenant moi vous poser une seconde question rapide. Tafadal. Naam, j'ai entendu ça, ça. Il y a un hadith, je ne sais pas exactement si c'est chez Nasa'i, à rahmatullah, jusqu'à ce que les émigrés vont un pays musulman. Naam, il y a un hadith qui dit cela, sah. Naam, il est sahih, mais je voudrais bien comprendre yani, ce qu'il veut dire avant de que je juge. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup parler de ce hadith, tant que je n'ai pas lu son sens et qu'on dit les ulama. Naam, comment doit-on le comprendre, sah. Comment doit-on le comprendre? C'est là le plus important. Car l'important, ce n'est pas ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup que qu'est-ce qu'il a voulu dire. Voilà la différence. C'est pas ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a parlé de certains gens dans un contexte où yani, il n'a pas vanté leur mérite. Au contraire, il a parti de certains gens, il a dit. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا L'Azim l'a dit par certains gens, il y a des critiques. Il a dit, il y a certains qui sont avec toi, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont avec toi. Ensuite, quand ils sortent de chez toi, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah a dit, parce que le vrai croyant ne dit pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la même chose ici. Ce hadith, il a dit comme tu as dit. Mais c'est quoi son sens? Laisse-nous, inshallah ta'ala, qu'on sache, inshallah ta'ala, le sens. On en reparlera, inshallah ta'ala, amplement. Sûrement, il doit y avoir des conditions, ce hadith, inshallah ta'ala. Dès que je le lirai, inshallah, je te donnerai la réponse. Inshallah ta'ala. Puisque la sœur qui m'a posé la question sur l'obligation personnelle et de groupe, elle m'a fait rappeler maintenant quelque chose. Fika barakallah, jazakallah khair. Inshallah ta'ala. Sabhat an hadith hadith. Naam. En ce qui concerne l'obligation de groupe et l'obligation personnelle, je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas souvenu un exemple très simple et très connu. Maintenant, je me suis souvenu, je vais le dire. Regardez. Quand nous sommes, par exemple, 5 ou 6 assis, 5 ou 6, ensuite quelqu'un passe, nous dit salamu alaykum wa rahmatullah. Nous, on doit répondre, ça, on est obligé de répondre. Est-ce que c'est une obligation personnelle, chacun de nous doit lui dire alaykum salam wa rahmatullah? Ou bien c'est une obligation de groupe. Yani, si quelqu'un lui dit alaykoum salam, ça nous suffit. Voilà la question. Et la question, elle est, inshallah ta'ala, importante. Donc, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, je lui donne la main, il me répond, est-ce que c'est G de groupe ou bien c'est P, c'est personnel. Si c'est personnel, ça veut dire tout le monde doit lui dire salam alaykoum wa rahmatullah. Si c'est deux groupes, un seul lui dit alaykoum salam, ça suffit. Moumine 84, tafaddal. Moumine tafaddal, barakallahu fik. Wa alaykoum salam, wa barakatou. J'aurais préféré que les frères, ils prennent le micro, comme ça c'est plus vite. Et qu'il m'aliche. Ma question portera sur le rouge. Tafaddal. Ou tafaddali. Naam. Quand quelqu'un fait le rouge, il est obligé de faire l'istinchaq et la madmada, surtout s'il n'a pas fait le petit wudu. Naam, quand quelqu'un fait le roust en se plongeant par exemple dans l'eau, il plonge dans la mer par exemple, il est en état d'impureté hein, sexuelle. Il plonge dans la mer, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement dire bismillah, et deuxièmement, quand il fait sortir sa tête de l'eau, il aspire de l'eau de son nez et de sa bouche au moins une fois pour que son rosl soit véritable. Sinon il a laissé quoi? Il a laissé un wajib, il a laissé une obligation, car rentrer l'eau dans la bouche et dans le nez, c'est une obligation et ce n'est pas une sunna. C'est une obligation, inshallah ta'ala. Abu Ahmed tafaddal, barakallahu fik. Naam, wa jazakallahu khayran anta aydan. Salam alaykoum. Lors de l'wudu, peut-on par exemple laver une fois le visage trois fois les mains, ou le contraire, ou doit-on laver chaque membre le même nombre? Au tout début, vous avez parlé de la doua, de l'acte sexuel. Je voudrais savoir si l'homme et la femme doivent le dire tous les deux. Expliquez-nous comment faire. Barakallahu fikoum. Naam, en ce qui concerne le wudu, moi je vais dire qu'est-ce que tu as dit ici dans ta question. En ce qui concerne le wudu, peut-on par exemple laver le visage une fois et trois fois les mains, etc. Ou bien le contraire? Naam. Cheikh Al-Albani, a authentifié certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des membres, certains membres, une fois, d'autres deux fois, d'autres trois fois. Donc il est permis que tu fasses une fois par exemple la bouche et le nez, deux fois par exemple le visage, et trois fois par exemple les bras. Ensuite tu descends au pied, tu fais deux fois. Yani, tout est possible et sunna inshallah ta'ala. Je n'oublierai pas de vous dire que trois fois c'est la meilleure, bien sûr, parce que trois fois c'est plus parfait, bien sûr, c'est plus parfait. Mais si tu fais ceci une fois ou là, juste pour faire revivre la sunna, inshallah ta'ala, tu as ajra. Deuxièmement, vous avez parlé du doua de l'acte. Je voudrais savoir si l'homme et la femme doivent la dire tous les deux. Expliquez-nous comment faire. Le doua, c'est اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ce doua on doit le dire en principe avant quoi لحظة j'ai fait une chose ici mais il y a beaucoup bien sûr qui c'est pas la peine d'écrire maintenant, il y a beaucoup qui n'ont pas l'arabe dans l'akhor. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'arabe sur l'écran. Ça n'écrit pas en arabe, alors que c'est très simple. Ça suffit d'avoir le Windows dans sa main, un fichier, tu vas cliquer, khlas, il te dit rentre-moi, fais rentrer le CD, tu le rentres 30 secondes, il descend le fichier. El Mohim. Je disais, donc l'homme, donc avant de faire l'acte, on dit le doua Bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. Pour ceux qui ne connaissent pas le doua Bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. En français ça donne à peu près Bismillah, ô Allah, éloigne de nous le shaytan et éloigne de nous le shaytan de ma razaqtana, de inshallah ta'ala ce que tu vas nous donner yani, comme enfant. Ma razaqtana. Wallahu ta'ala a'lam. Mais est-ce que les deux disent cela ou bien un seul dit? Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit seul l'homme dit. Il a dit pourquoi? Parce que quand on mange, qui est-ce qui dit Bismillah? Celui qui mange. Il a dit l'homme ici c'est le mangeur et la femme celle qui va être mangée. Donc c'est celui qui mange qui dit Bismillah. Quand tu manges la pomme, c'est pas la pomme qui dit Bismillah, c'est toi qui dis Bismillah et tu manges. Ici, c'est la même chose. Le mangeur dit Bismillah et la manger, c'est pas la peine qu'elle fasse le doua. Wallahu ta'ala, a'lam. C'est à qui le tour maintenant, Inch'Allah ta'ala. Frère Ibn al-Islam, je ne sais pas c'est à qui le tour. C'est pourquoi je demande à mes frères de faire descendre le bas pour savoir à qui le tour. Ibn al-Islam, tafaddal.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. En fait, cher, j'ai deux questions. La première, c'est le ghusl de Jumu'ah. Est-ce qu'on fait le ghusl de Janaba ou juste on prend une douche? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par exemple, si dans ta famille, il n'y a personne qui a appris la science de Dine. Est-ce que ça devient obligatoire, par exemple, si moi j'ai la capacité de le faire, est-ce que ça devient obligatoire d'aller apprendre et apprendre à ma famille? Et deuxièmement, par exemple, si mes parents ne savent pas faire la prière et des choses comme ça correctement, de quoi on doit commencer, c'est-à-dire le primordial, les choses qui priment? Et jazakallahu khair. Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Le ghusl du Jumu'ah, c'est exactement comme le ghusl de la Janaba. Le ghusl du Jumu'ah, tu le fais exactement comme tu fais le ghusl de la Janaba. En ce qui concerne la deuxième question, quand quelqu'un, yani ceux qui sont des ignorants ici, il a une capacité, comme tu dis, il est intelligent, il est obligé d'aller apprendre pour faire apprendre les gens, surtout sa famille. Comme on dit le Coran, فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Donc le Coran a dit, il exhorte les gens à ce qu'il y ait un groupe qui aille ailleurs apprendre pour venir apprendre les gens. Hadith, c'est en ce qui concerne les gens normaux, les étrangers. Enfin, qu'en est-il qui concerne la famille? Wallahu ta'ala alam. Troisièmement, s'ils ne savent pas la prière, etc., ils commencent par leur apprendre la prière. La prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quelque chose qui est attaché avec l'heure. C'est une obligation mu'aqqata. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, l'obligation, ça se divise en quatre ou cinq sortes. En ce sens, elle se divise, c'est une obligation qui est attachée avec l'heure, yani le temps. C'est pas comme par exemple, les parents, on doit les obéir. Ça n'a pas d'heure. Tu obéis quand il y a quelque chose à faire, tu obéis. Mais la salat, tu as un temps. Il ne peut pas faire la salat ni avant ni après. Donc c'est une obligation attachée avec le temps. Donc, tu lui apprends la salat et en même temps tu es en train de lui apprendre la salat, comment il va la faire, etc. Parce qu'il l'a fait 5 fois par jour. Ensuite, bien sûr, si waqtiha. Salat wajib mu'aqqat, لأنها فيها الواجب المطلق والواجب المؤقت. المؤقت, celui qui doit se faire à l'heure. Il y a des obligations qui n'ont pas d'heure. Par exemple, aider les gens, etc. Tout ça, c'est des wajibat, mais elles n'ont pas d'heure. Et ensuite, bien sûr, tu lui apprends la aqidah. Tu commences par la aqidah, c'est la première primordiale des choses. La première chose primordiale, c'est quoi? C'est de lui apprendre l'aqida. De leur parler un peu, yani. Non. Et ce n'est pas obligé, surtout s'ils sont, yani, ils n'ont pas un bon niveau. C'est pas la peine de leur commencer, par exemple, avec les actes et les attributs. Alors, tu le laisses pour un niveau assez bon. Car tu vas lui dire que l'agent a des mains, etc. Ça va l'embrouiller. Commence, inshallah ta'ala, ils ne savent pas les chefs, commence par leur parler, yani, qu'est-ce qu'il y a par exemple dans le paradis, qu'est-ce qu'il y a quand on rencontre Allah, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe, pour ceux qui ne font pas la prière à l'heure, etc. Hatta, yani, ils apprennent la rôle. Si tu vois que le niveau est un peu monté, tu leur parles, yani, que l'Azawajal, il a des noms, il a des attributs, il ne faut pas le ressembler à nous, etc. Et ainsi de suite, wallahu ta'ala, a'lam. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu le kitab en français, l'Aqida al-Tahawiyya, je ne sais pas. Si tabarakallah. S'il y a l'Aqida al-Tahawiyya, s'il y a quelqu'un qui peut nous procurer l'Aqida, l'Wasitiyya, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam Taymiyyah, traduite, expliquée par Cheikh Ibn Uthaymin. S'il y a quelqu'un qui peut nous procurer ce livre, Inch'Allah ta'ala. نعم جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى يجعلنا نحصل عليها. Je ne sais pas c'est à qui le tour maintenant. Je ne sais pas c'est à qui le tour où je me suis arrêté. Je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté. C'est pour ça que je vous ai dit que inchallah ta'ala de baisser les bras pour que je sache où je me suis arrêté. Frère ça, est-ce qu'il a posé la question? Il n'a pas. Salam alaikum. Il y a un frère qui veut une nasiha concernant sa situation. Le frère souhaite se marier, il est divorcé, il souhaite faire la hijra en Algérie, mais c'est en France, il a du mal à se marier, frère, il souhaite pas se marier à la mairie. Et il est polygame. Et lors de sa muqabala, les parents et la fille ne veulent pas. Quel conseil lui donne-tu de se marier au bled ou prendre une sœur d'ici pour faire du khair? Allahu alam. Naam. Ceux qui ont. Naam. Wallahi, il fait la salat istikhara. Il fait la salat istikhara. Il peut prendre une femme ici et elle peut être mille fois mieux que celle qui est au bled. Il peut se marier avec une femme au bled qui peut être mille fois mieux que celle qui ici. C'est pour ça que c'est très difficile et ça dépend avec qui il va tomber. Il y a deux préférences. S'il tombe par exemple avec une femme ici, ou une fille qui est talibat ilm, mais qui aime, du moins si elle n'est pas talibat ilm, elle aime le ilm, elle n'est pas contre. Voilà la différence. Il y a qui ne sont pas talibat ilm des filles ou des femmes et qui n'aiment pas le ilm. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc s'ils trouvent une qui talibat ilm ou bien qui aime le ilm, elle aime parler du ilm, elle aime elle apprendre des choses et qui l'apprend avec elle. Yani, il a frappé d'un caillou deux oiseaux. Il s'est marié, trois oiseaux. Il s'est marié, il a fait la hijra et elle, elle a fait la hijra avec lui. Donc, s'il a une fille entre ses yeux, il fait la istikhara, inshallah ta'ala, wa yatawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Fraîche, pareil, tafadhal. Wa alaykoum salam, wa barakatuh. Je ne sais pas, Mimo 027, s'il a parlé ou là, je l'ai sauté. Mimo 027, Mimo, afwan. Je ne sais pas si je t'ai oublié, pardonne-moi. Il n'a pas parlé, hein. D'accord. Alors avant de répondre à French Paris, je donne à Mimo 027, fadal. C'est pas ta faute, French Paris, c'est de ma faute, barakallahu fik, c'est pas ta faute. Fadal, Mimo 027. Alors je profite le temps qu'il est en train d'écrire. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma question est la plus suivante. Akhi French Paris, il fait jazakallahu khairan faqata. Yani fait le pour moi, inshallah ta'ala, d'écrire la prochaine fois un peu plus grand faqat, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Et peut-être qu'un jour je vous enverrai ce qu'a écrit la sœur Hillel quand elle m'a envoyé son devoir. Astaghfirullah, tu voulais. Selon le sahih, combien de temps puis-je ou dois-je raccourcir ma prière pendant le voyage? Et aussi, à quel moment le titre de voyageur m'est-il accordé? Barakallahu fik. Naam, mon frère French Paris, quand tu es en voyage, tu fais la salat raccourcie jusqu'à ce que tu reviennes à la maison. Quand tu es en voyage, fais la raccourcie jusqu'à, Inch'Allah ta'ala, ce que tu reviennes à ta maison. Et le voyage commence à partir du moment où tu sors de ta ville. Naam, ou même un an, même deux ans. Comme l'a fait Anas ibn Malik, il l'a fait deux ans. Et Abdullah ibn Samoura, il l'a fait deux ans. Et Misruq, il l'a fait deux ans raccourci. Tout ça, c'est des hadiths authentiques. Et Abdullah ibn Omar l'a fait six mois raccourci. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, sauf raccourci. Il n'a jamais fait une prière longue, normal quand il était en voyage. Donc je reviens, je veux dire, et tu commences à raccourcir quand tu sors de la ville. Par exemple, moi quand j'habite à Alger, il faut que chaque ville a un début ou une fin. Alger, par exemple, de l'autre côté, c'est Bir Khadem. Tu sors de Bir Khadem, tu n'es plus à Alger. De l'autre côté, par exemple, tu sors par exemple de la pointe Pessade. De l'autre côté ici, par exemple, tu sors de Indaya ou là. Et c'est comme ça. Quand tu sors de ta ville, si tu es dans une ville, tu vois la plaque, on n'est plus dans cette ville, tu commences à faire la prière raccourcie, Inch'Allahu Azza wa Jal. Akhimimu, où est-il? Akhimimu, où est ta question? Naam, aussi pour aller travailler, si quelqu'un va dans un pays pour se dire je ne vais plus revenir de ce pays, il doit la faire normale. Mais s'il va dans un pays, il va se dire je ne sais pas quand cette chose va se terminer, je vais revenir dans mon pays. Il ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Il la fait courte. Et quand il va dans un pays et il sait que c'est pour, par exemple, terminer une chose ou là des études ou là ou la travailler, ça il y a une diversion, il y en a entre les ulama, Cheikh Ibn Uthaymin et Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Cheikh Saadi alayhi rahmatullah, on dit il peut, même dans ce cas, lorsqu'il sait que il va rester tant d'années, il peut, Inch'Allah ta'ala. Mais quand tu es là-bas, je veux quelque chose de très important, quand tu es dans le pays là-bas, quelque chose de très important, quand tu es devant une mosquée où tu entends la prière, tu entends l'appel, tu dois aller à la prière. Même quand on est en voyage, on entend l'appel du muezzin, naam, on doit aller aussi à la prière du vendredi. Wallahu ta'ala. Abdelghani, tafaddal, barakallahu fik. السلام عليكم. Est-ce ce livre est bon? كتاب الورقات في أصول الفقه. زويني. نعم. Ce livre est très bon, surtout si tu lis ceux qui l'ont expliqué. Comme il y a quelqu'un qui s'appelle Abdullah Fouzan, il est très connu, Abdullah Fouzan, celui-là, il a expliqué ce livre. Ah, il a expliqué ce livre et il est très important, inshallah ta'ala. Non.
Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, j'ai une question à vous poser au sujet d'un hadith. Je voulais savoir s'il était authentique. Inch'Allah. C'est au sujet d'une femme qui. C'est pas le hadith. Il y a une femme qui m'a dit que. C'est-à-dire qu'elle a perdu son mari. Elle a donc deux enfants qui sont orphelins. Et elle pense. Elle s'est remariée et elle pense que. Elle pense qu'elle n'aurait pas dû et que. Parce que. Elle cite un hadith du prophète Mohammed qui dit que une femme qui a perdu deux enfants, qui a perdu son mari, pardon, et qui les élève sans se remarier, elle sera aussi près que du prophète Mohammed que ses deux doigts. Je veux savoir si vous connaissez ce hadith. Barakallahu fik.
Abdelghani, barakallahu fik, reprends l'akhor, reprends, j'ai pas bien entendu. Reprends Abdelghani, jazakallahu khayran. Pour que j'écoute bien, reprends Jazakallahu khair.
Salam alaikum, vous m'entendez? Donc, c'est une femme qui a perdu son mari, que Dieu ait son âme, et elle s'est remariée, et elle a deux enfants en bas âge, et elle dit souvent à son mari qu'elle regrette et elle prend comme position le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme qui ne se remarie pas et qui élève ses deux enfants toute seule, elle sera aussi proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ses deux doigts, comme les deux doigts de sa main. Et elle dit qu'elle ne peut pas donner de l'affection à son mari parce que elle n'arrive pas à gérer les deux, donner l'affection à son mari et à ses enfants. Elle n'arrive pas à gérer les deux. Vous m'avez compris? Elle n'arrive pas à faire les deux en même temps. Pour elle, c'est impossible. Elle a l'impression qu'elle fait une injustice envers ses enfants quand elle donne de l'affection à son mari et inversement. Voilà, Klausik.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que tu es prêt pour l'enregistrement? Si tu es prêt, dis-moi un barakallahu fik. Naam, c'est Abdelghani, naam. Salam alaikum mes frères et mes soeurs. Premièrement, Allah Azza wa Jalla. Être compréhensible de si le Cheikh allait se reposer, inshallah ta'ala. Ça fait 3 heures qu'il fait le cours, comme ça toujours. On va aller dans la chambre demain. Non, Inch'Allah Ta'ala, je vais arrêter chez cette question. Inch'Allah Ta'ala. Demain, Inch'Allah Ta'ala, on va faire le cours du hadith. Vous terminerez, Inch'Allah Ta'ala, vos questions. Et Inch'Allah, on va faire un jour spécialement pour les questions, Inch'Allah Ta'ala. 2h20. 2h20, j'ai pas compris. Yassine, ça fait 2h20. Pas 3h20. Muslim Kola, quand on a commencé le dos, il était 11h du soir ici. 11h du soir chez moi. Maintenant chez moi, il est 2h20. Compte, 11h. Jusqu'à minuit, ça fait 1h. Ensuite, 1h du matin. Ensuite, 2h du matin. Ensuite, 2h20. Donc ça fait 3h20, inshallah ta'ala. On arrête inshallah maintenant. Je réponds à mon frère qui avait demandé la question. Akhi Abdelrani, dis-moi la deuxième fois si tu m'entends maintenant pour te répondre inshallah ta'ala. Et inshallah ta'ala, on arrête inshallah ta'ala. Naam. Chouf, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Il n'y a aucun hadith qui dit que yani la femme elle doit pas se marier mais garder ses enfants, naam, garder ses enfants jusqu'à ce que elle me rencontre le hadith des deux doigts, etc. Le hadith sahih, le hadith est vrai, mais il ne parle pas, il dit pas que la femme doit pas se marier. Il dit que quiconque, ça veut dire même un homme, quiconque va yani garder des orphelins chez lui, va les élever, etc. Il sera proche de moi comme les deux doigts. Il a fait comme les deux doigts. Mais le hadith n'a jamais dit qu'elle n'a pas le droit de se marier. Il n'a jamais dit cela. Ça n'a rien à voir avec se marier ou ne pas se remarier. Il parle de quiconque, toute personne qui peut venir faire venir chez elle un orphelin et ou les deux, il est laissé jusqu'à yani grandir, etc. Ils seront yani près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle a dit, la femme a dit notre soeur. Les questions de mariage, elle s'est mariée, alhamdoulilah. Au contraire, yani, si elle est jeune, pourquoi que va-t-elle se priver de son mari? Qu'elle va-t-elle se priver yani, de beaucoup de choses? Mais en ce qui concerne l'affection yani, jointe entre les deux, en principe, yani, on essaye d'être au maximum de faire yani, le wajib. On essaye au maximum de faire le wajib. Parce que pourquoi? Parce que sinon on va rentrer dans les problèmes. C'est pour ça que des fois quand on n'aime pas quelqu'un ou là, ensuite on va pas lui obéir. Et ensuite quand on va pas lui obéir, on va rentrer dans les péchés, dans les grands péchés. Pour ne pas obéir à la femme, surtout à l'épouse, l'épouse à l'époux, surtout si la demande pour les rapports, etc., elle va pas accepter et elle va rentrer, elle va s'ouvrir une très grande porte. C'est pour cela que je lui conseille, moi, si elle peut patienter, inshallah ta'ala, qu'elle patiente, si elle s'excite impossible, celle-là, elle peut à l'amiable demander la séparation, faire venir ses parents et ses parents à eux, et dire voilà, je préfère y aller, je peux plus, je préfère terminer ma vie seule ou là, si vraiment elle a, comme je viens de dire, des raisons et que yani, elle sent que c'est impossible de rester avec lui. Et maintenant, si pour la moindre des choses, yani, les femmes vont chercher à se séparer, ça, comme vous devez savoir, ce n'est pas bien dans la charia. Dans la charia, plus l'homme reste avec son épouse, plus l'Azawjil aime cela. Pourquoi? Parce que c'est le shaitan qui essaye de disperser entre l'homme et la femme. Nous ferions bien le mari et l'Azawjil. Toute personne qui essaye de séparer entre l'époux et l'épouse, ça veut dire qu'il ressemble au shaitan ou bien c'est un shaitan. Toute personne qui essaie de les unifier, il a un grand ajr indallah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des cas où quelqu'un ne peut plus, ça c'est autre chose, comme a fait Maryam al-Mughaliya dans un hadith sahih, elle s'appelle Jamila bint Ubay. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit la a'tub ala malik dinan wa la khuluqan, moi je ne me plains pas de mon mari, ni de sa religion, ni de son comportement. Il a une bonne religion, un bon comportement, mais akrah al-kufr fil islam. Mais j'ai peur, yani, en islam, d'avoir des péchés, etc., parce que je ne peux pas lui obéir. Pourquoi je ne peux pas lui obéir? Parce que je ne l'aime pas. Dans un autre hadith, il est très moche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu peux lui rendre la dot? Elle a dit, je rends la dot. Elle lui a rendu la dot, c'était un jardin, et ils se sont séparés. Ça s'appelle le khula, c'est pas le mariage. Un khula, ça annule seulement. Ça annule, et ce n'est pas un divorce. Ça annule, et ils ont annulé leur mariage. Allah Azza wa Jalla yuhabbibaki ila zawjik, wa an yuhabbibahu ilayk, wa an yuhabbibana jami'an ila azwajina. Et on dit, comme a dit le Coran, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun. Le Coran, qu'est-ce qu'il a dit dans le doua? C'est un doua dans le Coran. qu'est-ce qu'on dit? Rabbana, oh Allah, hablana min azwajina, donne-nous de nos femmes. Min azwajina wa awladina, Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina, et nos enfants, qurrata a'yun. Yani, de façon à ce qu'ils soient, yani, la meilleure des choses entre nos yeux. On dit en arabe, cette chose, c'est qurratu ayni. Mon enfant, c'est qurratu ayni. L'autre, il dit ma femme, c'est qurratu ayni. Donc en islam, l'homme demande à ce que Allah Azza wa Jalla qu'il fasse que sa femme et ses enfants soient qurratu ayni. Et la femme, quand elle fait le doigt, elle demande à Allah Azza wa Jalla de faire en sorte que son mari et ses enfants soient qurratu ayni. Si Allah Azza wa Jalla exauce ce doigt, comme ça la personne, l'homme, n'a plus envie d'aucune femme dans le monde. Il a envie seulement de sa femme. Et la femme ne cherche jamais un autre homme. Elle cherche seulement son mari. نسأل الله عز وجل الإجماع بين قلوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وبين أهلنا جميعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Le cours إن شاء الله demain à 11h, c'est-à-dire à 22h européenne. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.